Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas.
Warido.
Nani.
Le Big Three. Trois frères. Des animés.
Nani.
Du manga.
Nani.
Des coups de cœur et des débats.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 22 de notre rencontre hebdomadaire. Merci encore de nous suivre et de nous écouter. Les trois gens sont là. Jean-Jacques, comment tu vas?
Toujours en forme.
Jean-Marc?
Ça va et vous?
Alors aujourd'hui, on a un invité qui fait partie d'un célèbre binôme et je suis grave content qu'il soit dans le studio. Alors, j'ai mes podcasts de musique de prédilection et Paroles Véritables en fait clairement partie. Alors, j'ai tellement écouté vos débats enflammés. Donc déjà, merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour cet épisode 22. Et puis, je vais t'introduire de façon Paroles Véritables. Alors, attention please, attention please. DJ Flexstyle dans le building. Comment ça va, DJ?
Ça va et vous?
On est là, on est là.
On est en forme.
Merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter. C'est avec plaisir que je réponds à l'invitation et voilà, on va avoir une bonne discussion sur un vrai sujet, donc c'est cool.
Alors c'est avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
DJ Flexta, DJ depuis 1998, cofondateur du média, du podcast Paroles Véritables avec mon frère d'armes, le Bougarno, que je salue.
On le salue, exactement.
Salut.
C'est un média qui se veut être par des passionnés pour des passionnés. On parle de musique principalement, mais tout ce qui est culture hip-hop. Voilà, on est dans le hip-hop depuis toujours. Donc, à un moment donné, on a voulu transmettre certaines valeurs, de l'amour de certains artistes, de certaines œuvres qui sont tombées dans l'oubli ou qui ne sont pas assez respectées à nos yeux. Donc, du coup, on fait des revues d'albums sur des albums qui ont 30 ans.
Ouais. C'est ça qui a du taf.
On explique aux mecs qu'on 19 ans pourquoi il faut absolument écouter cet album-là, pourquoi il défonce, quoi.
Très, très bien.
Nice, donc, nice.
Voilà. On le fait avec passion et sincérité. Donc, j'espère que c'est reçu comme tel.
C'est grave reçu. Et donc, je vous invite tous à écouter ça parce que ça en vaut la peine. Moi, j'écoute ça pendant ma séance de sport et ça me motive dans ma séance de sport. Donc, voilà. Alors, pour cet épisode 22, on va parler du film The Dark Knight de Christopher Nolan. Et Jean-Jacques, est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un petit pitch pour ceux qui ne connaîtraient pas, si ça existe?
The Dark Knight, le cavalier noir. Donc, c'est un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2008. Donc Nolan, tout le monde sait qui c'est un grand réalisateur à l'origine de très 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 belles œuvres, Interstellar, Tenet, Oppenheimer. En ce qui concerne Batman, personnage de fiction, univers DC, comics, première apparition 1939.
Ah ouais.
Ouais, donc on est sur un personnage très 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 ancien. Aujourd'hui, on va parler du film, donc le second de la trilogie de Nolan. C'est un film qui a reçu énormément de récompenses. Il a été donc il a reçu 8 nominations aux Oscars et il a été récompensé par 2 Oscars. Meilleur second rôle et meilleur montage de son. Donc, de quoi ça parle? On est à Gotham City, Batman, grâce à l'aide du commissaire Gordon et du nouveau procureur Harley Dent, décide de démanteler les organisations criminelles qui empoisonnent la ville. À eux trois, ils parviennent à ébranler le système mafieux qui gangrène la ville. Lorsque la ville semble enfin pouvoir espérer des jours meilleurs, un nouveau génie du crime débarque, le Joker. Il répand terreur et chaos dans la ville. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, mais ce criminel est hyper intelligent et redoutable. Il a un accoutrement original et il parvient à mettre la zinanie partout où il passe.
Ok, ok. Alors, avant de commencer, moi j'aimerais savoir, avant la trilogie de Nolan justement, c'était quoi votre rapport à Batman? Mister Flexta, dis-moi.
Bon, 1939, j'étais pas né. Non, parce que je me fais tailler sur mon âge, franchement. J'ai 39 ans, voilà.
Ça va. Mais t'es plus ancien que nous.
Non, mais y a pas de soucis. On n'est pas du genre à avoir honte de son âge, je sais pas quoi. Donc,
bref. Aucune raison.
Non, Batman, en fait, ça a toujours été le super-héros accessible.
Ok.
Donc, on l'a toujours kiffé parce que c'est son intelligence et son ingéniosité qui le défait de ces situations.
Et son oseille.
Oui, accessoirement. Mais il y a des gens qui ont de l'oseille et qui n'arrivent pas à faire ce qu'il fait.
Donc, c'est
ce que je veux dire. Non, le truc, c'est que Batman, on connaît depuis toujours, avec les figurines quand on était petit, etc. Et ça a toujours été celui le super-héros le plus stylé. Parce que la manière dont il disparaît, tu vois, c'est toujours avec la fumée, la robe, il disparaît. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Et ça nous rappelait un peu ce côté un peu shinobi, ninja, etc., etc., qu'on voit dans les films d'ailleurs. Ils ont renoué avec ce truc-là, notamment dans Batman Begins. Donc le rapport avec Batman, ça a toujours été un truc, les Batman de Tim Burton, avec Michael Keaton.
Même moi.
C'est le premier que j'avais vu avec le pingouin et tout et tout. Quand j'étais petit, je jouais ça, c'était comme un ouf.
Mmh. Ah, c'est trop marrant.
Magnifique, c'était trop, trop bien fait, etc. Et je revoyais des images de l'ancien Batman quand il avait un collant. J'ai dit,
c'était pas ça. Équipe.
Non, Tim Burton.
Oui, Tim Burton.
C'est Batman, ils étaient incroyables. Michael Keaton, pour moi, dans ma tête, Batman, c'est Michael Keaton.
D'accord. Tu vois, nous, on est passé à côté de ça, je pense.
Ouais.
Tu vois.
Ah ouais, carrément. Je crois que
c'est générationnel. Hein.
Oui, bien sûr.
Jean-Marc, toi, tu le voyais comment, Batman?
Moi, Batman, ça n'a jamais été mon super-héros. Genre, quand tu me parles de super-héros, on parlait de Superman, Spider-Man. Mais Batman, moi, je le voyais. Tu sais, c'était pas... Comme t'as dit, c'était pas des super-pouvoirs, en gros. C'était juste la création, etc. Donc pour moi, il n'y avait rien de super. Alors que Superman, il volait. Spider-Man, il lance des toiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc Batman, j'étais pas...
Et toi, Jean-Jacques?
Moi, Batman, comme on l'appelait, c'était le gars au câble. Hein.
Exactement.
C'était le gars au câble. C'était le mec, il n'avait pas de pouvoir, mais il balançait des câbles un peu partout pour se déplacer. Et moi, pareil, en termes de souvenirs, pour moi, c'était pas un héros qui me faisait kiffer. Moi, en souvenir, je l'avais... je sais pas si vous disiez qu'on était petit au McDo, il y avait des jouets et il y avait le rétroviseur de vélo et il y avait le rétroviseur Batman. Pour moi, Batman, c'était ça. C'était pas un super-héros, c'était un rétroviseur de vélo. Je sais, c'est dur.
Quel manque de respect.
C'est dur. Hein. Mais honnêtement, pour moi, Batman, à la base, c'était ça.
Idem. Franchement, je m'en souviens tellement de cette appellation, l'homme au câble, tellement on le taillait. C'est-à-dire que pour nous, Batman, c'était pas un super-héros. Et on est passé à côté des films. Nous, Batman, c'est juste un dessin animé. Et dans le dessin animé, on trouvait qu'il faisait pitié. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir. Il lançait que des gadgets, il disparaissait, etc. Il s'en sortait tout le temps, donc on se demandait comment il faisait. Mais il ne nous intéressait pas plus que ça. Ça veut dire qu'on l'avait vraiment négligé.
Ok. Vous êtes passé après le train Tim Burton, tout
on
ça,
a pas vu
film avec eux. Ok, ok.
Nous, Batman, on l'a découvert.
C'est pour ça.
Il y avait les dessins animés.
Exactement.
Ils étaient ok, mais ils n'envoyaient pas du lourd. Après, ils l'ont réhabilité un petit peu dans les dessins animés Justice League, où il était présent, mais face à une Wonder Woman, un Superman, un Flash, le Martien, je sais plus comment il s'appelle.
Martian Manhunter.
Exactement. Mmh. Et il était obligé de prendre l'avion parce que lui, il volait pas. Donc ça faisait un petit peu, t'es relou en fait.
Il a pas plus de mérite, le coup.
En fait, à l'époque, on voyait pas son mérite et on voyait pas le fait que ce soit une tête pensante, etc., etc. On voyait pas ça, nous, à l'époque. Quand on était petit, pour nous, Batman, il faisait tiep en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir, il était là, dans un monde où il y a des super méchants avec des pouvoirs, etc. Qu'est-ce que tu vas faire?
Après, attention, Batman, à la base, c'est pas un super-héros, c'est un détective.
Oui, c'est ça.
C'est un mec qui mène des enquêtes, etc.
D'accord.
Ça, je savais même pas.
À la base, c'est un détective. C'est vraiment un mec qui enquête dans l'ombre. Etc. C'est pour ça qu'il parle toujours avec Gordon. Il va chercher des informations et tout.
Mais c'est pour ça que quand tu le mets avec les autres super-héros, forcément, ça détonne. Tu dis, l'autre, il balance des rayons laser avec ses yeux. Lui, il est là à balancer des frisbees en forme de chauve-souris.
C'est le problème du super-pouvoir, moi, je pense, qui m'a fait que je l'ai mis de côté, Batman.
C'est ça. Donc, quand on était petit, effectivement, on l'a mis de côté. Et puis, il y a la trilogie de Nolan qui est arrivée quand même. Et moi, j'attendais rien. En tout cas, quand j'ai commencé par Batman Begins, je n'attendais rien de ça. Je suis parti le voir comme ça, en mode « Oh, Batman, il y a un film, lui. Allons voir. » Et là, ça a totalement modifié ma perception que j'avais de Batman.
Mais attends, même le Batman de George Clooney, vous ne l'avez pas vu?
Non.
Non.
Non,
non mais de ce qu'on dit, il est pas ouf avec. On a l'impression même. Enfin, il est pas incroyable.
Non,
de
pour l'époque, ça va. Pour l'époque, ça allait. Je sais qu'aujourd'hui, dans une époque, on veut défoncer tous les films. Mais pour l'époque, ça allait.
D'accord.
Okay.
Non, on n'était pas dedans parce que pour nous, Batman, c'était personne en vrai. Tu vois, Batman, c'était limite, tu vois, c'était un mec sur le côté.
Même chose, souris et tout, genre, il m'attirait pas.
On comprenait pas son délire, en vrai. Tu vois, là où t'as les Superman, Spider-Man, etc., lui, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a juste des gadgets pour nous. Donc, on le calculait pas. Même, tu vois, quand tu prends Iron Man, oui, c'est un gars qui a pas de pouvoir en soi, mais son armure a des vrais pouvoirs. Il vole, ouais, etc., tu vois. Batman, on voyait pas son intérêt. Et comme on l'a découvert que par les dessins animés, ben, on a raté tous les wagons qui sont passés, ils sont passés devant nous. Mais ce wagon-là, on s'est dit, bon, venez, on essaye de le prendre. Et on l'a pris, on s'est dit, ok.
Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la trilogie de Nolan, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce qu'en fait, ça te montre que Batman, mine de rien, il y a quand même une histoire assez deep. Et c'est pas juste un mec qui balance des frisbees. Il y a vraiment quelque chose et un personnage à creuser. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Je trouve qu'il a réussi à nous toucher avec un personnage qu'on banalisait. Donc,
c'est grave ça. Et donc vous, quand justement, du coup, le second opus est sorti, donc The Dark Knight, est-ce que vous êtes parti le voir direct? Est-ce que vous avez attendu? C'était quoi l'attente que vous aviez, Flexta?
Mais le buzz qu'il y avait autour de ces films-là, c'est de la folie, les gars.
Si.
Pareil, c'est vrai qu'il y a eu un laps de temps où Batman avait carrément disparu des grands écrans.
Ouais.
Surtout alors que c'est une franchise qui fonctionne, normalement les studios ils le refont, ils le refont, ils le refont. Il y a eu le Matrix, le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là, tous ces gros blockbusters qui sont arrivés. Et eux sont arrivés discrètement avec Batman Begins. Donc Batman Begins a fait ce qu'il a fait, il a instauré un nouvel univers, ça c'est très important. Ouais. Parce que tu vois, quand tu prends le deuxième film, en fait, moi, j'ai du mal à prendre un... Quand il y a des trilogies, je prends toujours le truc dans son ensemble parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Là, on va parler du film du milieu. Mais l'attente qu'il y avait, surtout que le Batman Begins, il finit bien. Tu sens que c'est bon, le Batman, il est établi, ça y est, à la fin, il a trouvé sa quête. Le 2, on sait qu'il y a le Joker.
Oui, il le tease. Il le tease à la fin.
Etc., etc., etc. Mais laisse tomber le buzz qu'il y avait. C'est-à-dire que dès que ça sortait, le soir même, on était au cinéma.
Ah ouais.
T'as Jean-Marc?
Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma.
Oh là là,
aïe, aïe, aïe.
T'es sérieux?
Les gars, je ne l'ai pas vu au cinéma. Mais pour ma gouverne, je crois que j'étais à l'internat à cette époque-là. C'est-à-dire, j'ai attendu et je crois que je l'ai vu un week-end en streaming, tranquille.
Tiens, Jacques.
Moi, c'était retour des États-Unis. Je devais reprendre les cours et juste avant de reprendre les cours avec des potes, on se dit bon, on va charbonner cette année, finir, on se fait un petit kiff, allons au ciné. J'étais hypé, tu vois, mais je m'attendais pas à ce que ce soit une grosse claque. Je me suis dit ouais, je vais passer un bon moment. Et en vrai, waouh,
le temps
est passé à une vitesse, c'était incroyable, rebondissement sur rebondissement. Enfin, j'ai passé un moment incroyable.
Ouais, mais même moi, tu vois, j'ai vu que ça allait durer 2h30. J'avais apprécié le premier opus. Hein. Mais je suis allé en me disant, bon, on va voir si ça continue, tu vois. Et j'ai rien vu venir. J'ai pris une grosse claque. C'était magnifique.
Vous n'avez pas vu la bande-annonce?
Je regarde pas les bandes-annonces. Ouais, moi, je regarde jamais.
C'était la bande-annonce qui nous a rendu fous.
Ah ouais.
Parce que c'était à l'époque où les bandes-annonces étaient encore un peu frais. Aujourd'hui, bah attends, laisse tomber. Mais à l'époque, on a vu la bande-annonce, on se dit wow, c'est quoi ce truc-là? Tu vois, un camion qui se retourne, des machins, la moto, les bruits, les sons, etc., etc.
Non, après, la différence, c'est que nous aussi, on n'avait pas forcément toutes les références. On les avait de loin. Tu prends double face, on voyait qu'il existait, on savait qu'il existait, mais on n'avait pas toute la backstory. Mmh. Et le fait qu'ils t'introduisent comme ça pas mal de personnages, et de toute façon, c'est bien fait. Tu t'y attends pas. Pour peu que t'aies pas vu la bonne annonce, à chaque fois que t'as une nouvelle info, tu dis ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y avait que ça.
Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, du coup, vous, le film, quand vous l'avez vu, est-ce que vous attendiez à ça, ou est-ce que vous avez été surpris, et pourquoi vous avez été surpris en fait du coup?
Moi, j'ai été surpris parce qu'il y a eu énormément de retournements de situation, parce que il y a eu plein de persos que je connaissais de loin qui ont été hyper bien incarnés.
Ouais.
Je trouve que le casting il est magique. Le casting est magique. Chaque perso vraiment transpire. En fait, t'oublies que c'est un film limite. Tu dis ok, c'est où Gotham, que j'y aille pas. tellement les gars ils font le job. Donc moi j'ai sorti de la salle. Encore une fois, j'étais matrixé par le truc et je sais que j'ai réhabilité Batman après ce film-là.
Ouais, moi aussi c'est pareil.
Moi aussi. Pas après le 1. Celui-là, c'est vraiment celui-là qui m'avait marqué.
Ah ouais. Et toi, Flexa?
Moi, c'était compliqué parce que j'avais déjà une image de Batman.
Ouais.
Pour moi, c'était Michael Keaton, après George Clooney, etc. Donc, il fallait déjà effacer ce truc-là.
C'est ça. Ah.
Batman Begins l'a fait. Moi, Christian Bale, c'est pas un acteur.
Ah ouais?
Alors, c'est bizarre, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est pas fort.
Ah ouais?
Okay. Moi, j'ai trouvé qu'il a grave bien incarné, justement.
Le truc, déjà, Batman, c'est quoi? Pour moi, Batman, c'est le menton. On voit pas un truc. Okay. Michael Keaton, il y avait le menton, parce qu'on voit que ça de toute manière. Tu vois ce que je veux dire, Clooney aussi, il a le menton. Et Christian Bale, il l'a pas. Et du coup, même au niveau de son costume, ils ont fait une forme un peu particulière. Tu sais, pour chaque Batman, il faut toujours une forme particulière et tout et tout. Et la scène, elle était moins charismatique, je trouvais. Donc déjà, il a fallu que j'intègre ce truc-là. Mais une fois que j'ai intégré le film, quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. D'accord. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que c'est pas un film de super-héros, en vrai, si tu regardes bien.
C'est ça.
C'est un thriller, le truc.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est ça qui le rend plus intéressant que des autres films de super-héros.
Exactement.
Moi, je fais souvent la comparaison avec les films du MCU où il n'y a pas de pouvoir. Mm-hmm. Captain America, le soldat d'hiver. Mm-hmm. C'est incroyable, c'est l'un des meilleurs films
du MCU. C'est vrai.
Il n'y a pas de pouvoir dedans.
Ouais, c'est vrai.
Comme quoi, tu peux faire un film de super-héros avec un bon scénario, des bonnes intrigues, des bons personnages, des bons acteurs, sans avoir des rayons laser dans tous les sens.
Mais du coup, tu préfères le costume à l'ancienne avec. Parce que t'avais le fond jaune avec le Batman en noir. Tu préfères ce type de costume-là au nouveau ?
Alors, quand Nolan il arrive, il installe l'univers, tu comprends que, bon les gars, là c'est pas un Batman pour les enfants.
Ouais, c'est ça.
Là, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de truc. Là c'est un Batman sérieux.
C'est ça.
Tu vois, c'est noir, c'est du cuir, c'est du Kevlar, c'est des, tu vois, hein, que le nom de la marque. Kevlar, tu vois ce que je veux dire. C'est pas de la soie ou je sais pas ce que je veux dire. Parce que l'autre il était gris, je sais pas quoi. Donc, déjà, au niveau des couleurs, au niveau des teintes, déjà c'était plus intéressant. Et même, visuellement, t'as l'impression que le truc il est super solide.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vrai.
Et surtout, moi, une fois de plus, faut installer un univers. Les mecs, ils t'expliquent. Ils disent pas, ouais, c'est comme ça parce que c'est magique. Ils t'expliquent la division de Wayne Enterprise qui fait la R&D sur des matériaux militaires, paramilitaires, très sophistiqués, etc. Tu comprends pourquoi mec, il a ces équipements-là, pourquoi machin.
Je suis d'accord.
Moi, ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est que. Et c'est vraiment tout à son honneur. C'est que moi, Batman, pourquoi je l'aimais pas quand j'étais petit, c'est que je n'y croyais pas à ce personnage. Je me suis dit, gars, tu peux pas tester contre Superman, tu peux pas tester contre X ou Y, t'es trop faible pour eux, tu vois. Et là, le fait que Batman soit dans un univers, en fait, d'humains, où les ennemis, c'est juste des humains, en vrai, tu vois. Là, ça m'a rendu le personnage intéressant. Et je me suis dit, ok, là, c'est le boss, mais parce qu'il combat des humains.
Là,
c'est logique, tu vois. C'est pas il combat un gars qui vient d'une autre planète et il peut tenir face à lui. Là, il combat des êtres humains. Et là, oui, ok, il est smart, il a la technologie, etc. Ça devient crédible.
Ah, peut-être ça.
Moi, je veux juste apporter une précision très importante. En fait, vous savez que Batman, Justice League, tout ça, c'est plutôt récent dans l'histoire de Batman, en fait. Parce qu'au début, il n'y a pas tout ça. Moi, quand j'étais petit, quand il y avait les Batman de Michael Keaton, etc., il n'y a pas de Justice League. Il était pas avec Wonder Woman, Superman, etc., etc. Ils étaient dans leur univers respectif. À la limite, Superman et Wonder Woman, il y avait un petit rapport. D'accord. Mais sinon, Batman, il était vraiment dans son truc. Lui, à Gotham.
D'accord.
Il
n'allait
pas à côté. À Gotham. Et il faisait régner la terreur sur les criminels. Tu vois,
Mais parce que nous, la façon dont on l'a chopé, le train qu'on a chopé, c'est le train où il est avec les Justice League, etc. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas, tu vois. Et ça ne le rendrait pas crédible. On se dit, mais tu ne peux pas tester contre eux, arrête. Fais pas genre que tu peux gérer contre des pouvoirs de X ou Y alors que tu n'as pas de pouvoir. Alors que là, c'était tellement sombre. En plus, et le fait aussi que ce soit un super-héros, tu vois, Superman, il est chaud, etc. Mais ce que je peux lui reprocher parfois, c'est qu'il est un peu trop moelleux dans le sens où...
Il est lisse,
tu vois. Là, Batman était sombre. Il blaguait pas, tu vois. Tu sentais que le gars, c'est un super-héros, mais c'est pas un super-héros pour les enfants.
Ouais, il a des bagages, quoi.
Tu vois. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et je trouve que le film aussi, la façon dont c'est tourné, c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique. Alors, tu parlais de la performance de Bale, et justement, je voulais venir sur ça parce que l'acteur qui a joué le Joker, il a eu un Oscar. Mais moi, à la sortie de ce film-là, j'ai trouvé que Christian Bale, il a été magnifique.
Ah oui, oui.
Son jeu, j'ai adoré.
Moi, j'ai adoré les deux. Je trouve qu'ils étaient hyper complémentaires. T'avais la folie du Joker qui te rendait fou. Tu disais, mais en fait, c'est pas possible d'être fou à ce point-là dans ta folie. C'est pour te dire à quel point il y avait de la folie empilée. Et Batman, tu disais, c'est pas possible d'être. Il sourit pas.
Ah non,
il sourit pas. Le seul moment où il sourit, c'est totalement fake. Et c'est parce qu'il doit jouer un rôle, le rôle du milliardaire, philanthrope un petit peu déconnecté. Mais sinon, tout le film, le mec, il sourit pas. Crampe à la bouche, il n'y a pas de sourire. Et je trouve que ça incarnait bien l'univers parce que tu sais que Gotham, c'est une ville qui est pourrie.
Sombre.
Et clairement, t'avais les deux faces d'une pièce avec le mec complètement fou et l'autre qui essayait justement avec son côté sombre de canaliser toute la folie de la ville. Et je trouve qu'il jouait, qu'il a bien, bien incarné le truc.
Et toi, Jean-Marc ?
Non, mais c'est ouf parce que pour moi, le Joker, vraiment, le personnage, je ne l'imaginais pas mieux que ça. Jusqu'à que récemment, le nouveau Joker là, qu'ils ont fait avec l'autre là, qui est sorti, juste le film Joker. Là, tu te fais une.
Joachim Phoenix.
Non, pas Joachim Phoenix. Les taux, lui, on peut mettre sur le côté.
Sur le côté.
Franchement.
Et bon, là, j'ai une autre image du Joker. Mais cette image du Joker dans ce Batman-là, pour moi, c'était ça, un Joker. Genre, il est incroyable. Des scènes, tu dis, mais c'est un malade. j'ai hâte des scènes. On en parlera peut-être, mais j'ai adoré. Genre, c'est tellement genre naturel. Et tu sais, il est dans son truc. J'ai trouvé ça parfait. Genre.
Si je peux me permettre, dans sa folie. Il y avait quand même un plan, et c'est ça que j'ai trouvé assez déroutant. C'est que t'as l'impression que le mec, il est complètement fou, mais c'est pas le cas.
Il est fou quand même.
Oui,
ouais, il est complètement fou.
Il est complètement fou.
Je te confirme qu'il est fou.
Mais dans sa folie, il y a une logique.
Ouais, mais quand t'as une. Mais
non, parce qu'il avait un but dans sa
jeu. Mais toute folie a une logique. Hein. C'est quand tu dis que quelqu'un est fou comme ça, il est pas fou comme ça. Il a sa logique. Quelqu'un qui est parano, par exemple, dans sa logique, quand il va t'expliquer pourquoi il est parano, il va dire ouais, mais en fait, t'as mis une caméra parce que. Tu me surveilles. C'est juste l'interprétation qui montre la folie. Mmh. Mais il y a une logique dans sa folie. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois ce que
tu veux dire. Oui, il a une logique, mais il est fou, le gars.
Totalement fou.
Et toi, Flexta ?
Bah, c'est marrant parce que là, je vois le décalage. J'ai l'impression d'avoir 79 ans. Enfin, après, parce que, en fait, là, tu parles du. Autant j'ai expliqué que Christian Bale, il a fallu qu'il incarne le personnage. Parce que, voilà, il y a des personnages avant lui qui sont passés, etc. etc. Mais le pire, c'était le Joker. Parce que. Pour tout le monde, le Joker, c'est Jack Nicholson.
C'est vrai.
Ah.
Le Joker, c'est Jack Nicholson parce qu'il a tellement incarné, c'est l'un des meilleurs méchants qui a jamais été fait.
D'accord.
Et c'était son rôle. Genre, tu penses à Jack Nicholson, tu penses forcément au Joker de Batman.
Incroyable.
Et Heath Ledger, il a dû refaire un travail d'aller encore plus loin que ce mec-là.
C'est ça.
Un côté moins enfantin, moins foufou, peut-être. Plus sérieux, mais plus tourmenté, en fait.
Ouais, exactement.
Le truc, c'est que démoniaque le Joker, tout au long du film, en fait, t'y crois.
C'est ça.
Tu vois, tu crois.
Ah, c'est ça.
Et en fait, et attention, parce qu'ils ils s'en sont servis aussi pour la promo du film. Quand tu sais que le mec, il meurt pour ce film-là, parce que ce rôle-là, il l'aurait rendu fou.
Ouais. Mais non, ça, ils ont joué dessus. Moi, j'ai lu, ils ont exagéré. Ils ont exagéré, c'est pas vraiment ça. Il est vraiment devenu fou pour le rôle et tout.
Je voulais dire, il est vraiment mort.
Non, mais c'est pas à cause de ça, c'est sa femme qui l'a rendu fou. Parce qu'il l'a perdu à la fin du film, il a perdu ses enfants, il est tombé dans une dépression. Et en sortant du rôle du Joker, donc imagine. D'accord. Chez lui, il avait des graffitis, son père, il a dit, je le reconnaissais plus, le gars. Genre, il pensait Joker, il était devenu un peu paro, mais c'est pas à cause du film.
En tout cas, ils l'ont vendu comme ça.
Il y a plein de gens qui sont partis voir ce film-là pour ça. Ah, pour ça, bah oui. Tu connais comment les gens sont tordus. Le gars, il est mort pour son film, ils veulent aller voir, tu vois.
Ah ouais. D'accord. Et donc, du coup, parce que. Pour vous, du coup, dans ce film-là, qui a fait la meilleure performance ? Est-ce que c'est le Joker ou est-ce que c'est Batman ?
Moi, je mets balle au centre.
Carrément.
Je mets balle au centre parce que, encore une fois, le Joker, il fonctionne parce qu'il y a Batman en face.
Non. Il y a des scènes, il n'y a pas Batman, il est incroyable, Gigi.
Ouais, mais Batman, il est incroyable sur ces scènes aussi.
Bah, en fait, si tu enlèves le Joker de ce film-là, c'est Batman Begins.
Ouais, c'est pas faux.
Ouais, c'est ça.
On va pas dire qu'il est mauvais. Parce que moi, je trouve que Christian Bale, il a pas d'émotion. Mais c'est parfait pour le rôle de Batman.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est un mec qui monte pas d'émotion. Il est toujours flegmatique, etc., etc. Donc, ses interactions avec le commissaire Gordon et tout.
Ouais, exactement.
Tout ça fonctionne bien.
Ouais.
Même le binôme qu'il forme avec Alfred. La relation père, t'es pas mon père, mais t'es mon père. Tout ça, tu sens de l'émotion, ça fonctionne. Mais le Joker, ce qu'il lui envoie en face, mais laisse tomber. Les scènes où ils sont tous les deux. C'est incroyable.
C'est vrai que le Joker, en fait, c'est censé être un Batman, mais t'as l'impression que c'est un Joker fit Batman. Parce que le Joker, il incarne plus le...
Bah, ouais, les vrais films où le méchant, il performe de ouf, c'est comme Infinity War avec Thanos, t'as l'impression que c'est son film.
Ouais, c'est vrai,
c'est Joker qui dit, vas-y, viens faire un coup de pied sur mon manteau.
Tu vois ce que je dis ? C'est son fit de ouf.
Donc je marque aussi, t'es en mode, c'est le Joker, quoi.
Ouais, pour moi, c'est le Joker. Bah après, ouais, dans celui-là, c'est le Joker.
Moi, je suis comme Jean-Jacques. Pour moi, c'est balle au centre parce que je trouve qu'on a trop négligé la performance de Bale dans ce
film. Ouais, mais dans celle-là, elle est pas folle, en fait. Si moi, tu remarques, elle est pas folle.
Mais moi, je trouve qu'il joue trop bien.
Dans le 3, là, tu peux rien dire. Mais incroyable dans le 3, sa performance.
Le 3, c'est encore autre chose parce que, bon, il y a débat sur le 3, mais moi, sur celle-là, je trouve que pour convaincre quelqu'un comme moi qui était pas pro-Batman, qui était même en vrai anti-Batman de base. Genre, Batman, pour moi, c'était personne. Et l'avoir installé en deux films comme étant un gars quasiment à la fin de ce film-là, pour moi, Batman était au-dessus de Superman dans le sens que je préférais plus Batman que Superman.
Mais du coup, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est grâce au Joker que Batman est devenu ce Batman-là. Parce oui. qu'en face, il avait vraiment un adversaire
un cinglé.
À la hauteur.
C'est vrai, c'est
très
vrai.
Compliqué à gérer.
Il mettait au pied du mur, gars, quand il fait le, quand il lui dit il y a un choix à faire entre l'autre et l'autre. Il dit donne-moi le gars, il fait le fou, il dit n'importe quoi. Là, c'est dingue.
Non, mais c'est exactement. C'est
après
exactement
il dit attends, il y a un téléphone qui sonne dans le ventre du gars. Mais attends.
Non, mais c'est dinguerie. Déjà ça c'est dinguerie, mais surtout dinguerie. Que Batman, c'est quoi c'est son pain quotidien, c'est la pègre de Gotham, des malfrats qui veulent de l'argent, fait. Du pouvoir, je sais pas quoi. Là, le mec lui dit ouais tu pour de l'argent, il dit mais tu m'insultes pas, tu qu'est-ce que je vais faire avec de l'argent,
de ouf,
il dit ouais parce que tout ça parce que tu veux me tuer, il dit quoi mais je veux pas te tuer, t'es un ouf. Tu vois même Batman tu vois il est égaré,
je comprends pas qu'est-ce qu'il
mais
veut
tu veux quoi. Pourquoi tu fais tout ça, tu veux quoi,
c'est vrai hein.
Mais du coup alors pour vous, parce qu'il y a plein de scènes qui choquent du Joker, pour vous c'est quoi la scène qui vous a le plus choqué, genre vous avez dit ah ouais non là c'est chaud, là on peut rien faire de ce gars là il y a rien à gratter, Jean-Jacques?
Mais moi c'est pas forcément la scène la plus incroyable, mais la scène qui me marque à chaque fois, parce que je me dis, mais dans quel monde quelqu'un fait ça, tu le laisses en vie. C'est, il débarque à la réunion
des
mafieux.
C'est ma scène, c'est ma scène.
Il débarque avec sa dégaine là.
C'est quoi
ce mec. Et là, il plante le stylo. Il fait, je vais faire un tour de magie, dans 3 secondes, le stylo va disparaître. Et là, tu fais, il y a un mec qui approche, il fait 1, 2, bim, il claque la tête du gars contre le stylo et il fait tadam. Et là tu dis non, le mec est barré, le mec tu peux rien en faire, tu vois que toute l'assemblée elle est choquée, elle est là mais qui est ce mec, qu'est-ce qu'il vient faire ici,
et après en plus il upgrade le truc,
c'est ça
première scène qu'il arrive et après il upgrade le truc, ils veulent tous venir le tuer, il fait hop hop hop, il ouvre sa veste des grenades donc il ne peut pas se faire sauter, ils sont mais attends mais c'est qui ce gars, genre ah non incroyable cette scène, moi c'est ma scène celle-là.
Attends, c'était
bah oui ça c'est ma
ah,
scène
ouais, d'accord.
Incroyable, moi le moment là où il sort les grenades ouais ils se disent mais c'est un fou lui. Non, il est prêt à se faire sauter, genre ils sont fous, c'est quoi le délire, ah gars.
Ça fait que ça c'est quoi,
non moi c'est pas cette scène.
Ah ouais,
évidemment, t'as les scènes explosives, etc., etc. Mais en vérité, moi, la scène qui m'a rendu ouf, je me suis dit, mais en fait, il est vraiment fou, ce mec-là, pour rester poli. C'est quand il débarque à la petite fête des Wayne, là, avec Rachel, etc., etc. Le petit cocktail et tout, tu vois. Tu connais les ambiances cocktail. Même il y avait le tonton qui était en train de faire ça. avec la stagiaire. Lui, il débarque dans la fête, silence. Et c'est lui qui il vole le show, en fait.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il
vrai.
Arrive, il est là, il mange des petits fours, il prend le verre de la meuf, il verse tout, après il voit un truc. Et quand il attrape Rachel, là, même le jeu de caméra et tout,
ouais.
Il attrape Rachel, et quand il lui explique, ouais, tu sais pourquoi j'ai ces cicatrices, etc., etc.
Ah ouais,
tu
vois, cette
phrase, moi, tu vois, non, mais moi, cette phrase-là, justement, c'est l'une des phrases aussi que je kiffe du Joker, parce qu'il se fait bien remarquer, cette phrase, il la sort plein de fois, et c'est une histoire différente.
Il grave.
J'adore.
Parce que, justement, moi, je pense que la foi où il dit la vérité, c'est quand il le dit à Rachel.
Pourquoi?
Parce qu'il voit que Rachel, elle sort et tout, il lui dit, ah, toi, t'as du cran, toi, le truc, ah, tu résistes, ça va me plaire, etc., etc. Et quand il lui fait ça, tu vois la caméra qui tourne autour. C'est-à-dire que ça rend la scène encore plus folle. C'est-à-dire que...
Psycho, genre.
T'arrives pas à savoir où t'en es, tu vois, dans l'espace. Il tourne autour des deux, et il est là, il la tient, il la menace avec le couteau, il lui explique les lames, il dit ouais parce que ma femme m'a quitté, que je l'ai attrapé, je me suis fait ça tout seul.
Ouais.
C'est là que tu te rends compte que le mec il est fou. Et après Batman il débarque, il lui dit ah ben tu vas m'adorer, etc., etc. Il lui met une grosse patate, il tombe, il se bat avec tout le monde et tout. Il attrape Rachel.
Il la jette.
Il dit ouais, lâche-la. Il dit mauvais choix de mots. Il dit non, lui là, c'est MVP. C'est qu'il avait pas.
Il
dit non, fais lui.
Et même en vrai, il se bat, hein. Il se bat à chaque fois qu'il y a eu des scènes où il devait se battre, il a
moi,
pas démérité.
Moi je sais pas s'il se bat ou s'il encaisse les coups.
Merci.
Il sent pas les coups, gars.
Merci.
Juste si, la scène au commissariat là, quand Batman il lui tape, même j'ai eu mal pour lui,
il lui tape
sur les mains comme ça, pas avec son sac.
Mais ça rend fou.
Ça lui fait rien, il fait ah.
Mais ça
c'est
carrément fou parce que Batman il tape, normalement tu devrais avoir peur.
Lui il adore, c'est ça qu'il dit. Mais c'est ce qu'il dit.
Oh là là, là
c'est pour ça le flic avec même il a dit ouais je vais pas te faire le plaisir de te toucher.
Justement c'est là que tu sais qu'il sait se battre parce que ils ont mis hors caméra, le gars il dit ok je vais faire ça. Propre et tout, et la scène
ah oui,
d'après,
après, ouais, c'est, vrai.
C'est lui qui a le
qui a l'ascendant sur l'autre.
Et ah, il sort
les sorties avec un couteau sous son cou. Ouais. Alors, moi, la scène qui m'a choqué en fait, mais je me suis dit à ce moment-là, ok, non, il n'a rien à gratter, c'est vraiment le méchant le plus ouf. On ne peut rien faire, on n'a pas de prise sur lui, en fait. C'est quand le gars, il a récupéré toutes les thunes de la pègre.
Ah ouais, ouais, ouais.
T'as une montagne de dollars. Et
c'était pas son but, gars.
Il y avait tous les leaders de la mafia qui étaient là et tout, en mode, ah ouais, on t'a ramené la thune, franchement, t'as géré, etc. Et il dit, ah non, mais en fait, moi, je vais tout brûler. Puis il dit, quoi ? Mon gars, t'avais tout ça pour ça ? Laisse.
Et le gars, il brûle la moitié. Non, justement, c'est ça qui est fort. Au début, il dit, je vais brûler la moitié. C'est pour ça que j'aime bien le personnage, parce qu'il évolue. Et à la fin, l'autre, il fait le malin, tout ça, il fait, ah, il pète les plombs, il dit, je brûle tout.
Mais t'as capté ?
Il a tout brûlé. ça y est. Au début, il a dit, la moitié, prends ta part, c'est pas grave. Après, il a dit, ah, vous voulez me rendre fou, je brûle tout. Moi, c'est pas la thune, mon problème.
C'est ça.
Ouais, il est vraiment fou.
Et là, je me suis dit, mais attends, mais en vrai, parce qu'avec toute cette thune-là, en vrai, il pourrait se retirer. C'est fini.
Ouais, c'était pas son délire.
Il part, c'est une live, il part à je sais pas où, il se met au vert, il est tranquille. Mais ça, j'y vis pas, en fait.
Là,
c'est ça que tu dis, non, c'est chaud. Et même, cette phase-là, elle fait écho à ce que Alfred disait à Bane. Parce qu'au bout d'un moment, Batman, il est perdu. Il dit, mais en fait, mais je comprends pas ce qu'il veut, lui. C'est quoi ce délire?
Ah, il dit qu'il a brûlé la forêt.
Et le gars, il dit, mais en vrai, il a fait son exemple où il avait brûlé la forêt pour récupérer un gars. Il dit, mais en fait, il y a des gens, bah, ils ont pas de but, en fait. Ils veulent juste leur but.
Le chaos.
Le chaos.
Ouais.
Donc là, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Toi, t'as un but, t'es logique, etc. Mais lui, il a pas cette logique. Lui, c'est le chaos qu'il veut.
C'est ça qui est problématique. Quand t'as un ennemi qui répond à aucune logique, ou du moins, ce qui ferait flancher quelqu'un de normal, sur lui, ça n'a aucune prise.
Exactement.
Là, c'est ça les pires. Hein. C'est les pas pires. Négocier.
Et tu vois, j'ai repensé à notre débat sur les méchants les plus charismatiques, etc. On avait classé que deux types de méchants. Mais ouais, pour moi, c'est le troisième, c'est le Joker, en vrai. Parce qu'on avait dit que
Il y a le Matu Vu.
Il y a le Matu Vu, celui que tu vois depuis J-Zero, que c'est lui le boss, ouais, il fait ses mécaniques, etc. On sait que c'est le méchant, mais en fait, on l'attrape rapidement. Il y a celui qui fait ses trucs en scred, comme Scar dans Le Roi Lion, là, tu vois, un peu fourbe, etc. Mais il a sa logique, et en fait, c'est rationnel. Il a des trucs à perdre aussi, lui. Et puis, il y a le gars, en fait, sur lequel t'as pas de prise.
Rien
fou comme
perdre,
le Joker, là.
Voilà, rien à perdre.
Mais c'est lui le plus flippant.
Et il ira jusqu'au fond, ouais.
C'est ça, tu vois. Non, lourd. Et donc, du coup, parce que dans ce film-là, il y a quand même des twists, en fait, des moments où tu dis. Tu pensais que c'était linéaire et puis ils te surprennent, tu vois. Pour vous, c'est quoi qui vous a surpris dans ce film? En fait, tu t'attendais pas. Tu te dis, ah ok, mince. Tu vois, parce qu'il y a des phases comme ça dans ce film.
Ah, moi, il y a trop de scènes.
Le meilleur twist,
vas-y.
Ça va être le moment de l'hôpital. Parce qu'en fait, tu vois que c'est Gordon.
Non, c'est d'accord.
Non, c'est Dent.
Ça dépend. Quel moment?
Harvey Dent, ouais. Tu vois que Dent, en fait, ça y est, il a perdu la raison.
Ah oui.
Parce qu'il commence. En fait, De base, il veut le tuer, le Joker. Mm-hmm. Le Joker, il vient le voir, il le détache, il dit : je comprends ta peine, tout ça, nanana, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait ça, nanana, je t'explique. Il explique sa logique.
Ah, quand Joker est parti voir Dent à l'hôpital.
Ouais, d'accord. Et tu vois que Dent, au bout d'un moment, il se dit : ah ouais, tout ça, nanana. Normalement, il doit tuer le Joker. Et il part dans son jeu : non, ok, on va jouer à la pièce. Il joue à la pièce, le Joker gagne, il le tue pas. Et c'est là, lui, il rentre dans sa folie.
Mm.
Et il commence à juger tout avec la pièce.
Mais en vrai, depuis le début, tu vois qu'il joue avec sa pièce.
Oui,
en
mais
fait,
il triche,
hein.
Mais il trichait avec sa pièce.
Exact. Ouais, c'est vrai.
C'est ça qui était beau aussi. C'est
là, vrai. Il était devenu là, ça y est.
Ah, c'est ce truc-là.
Ouais.
Mais ce truc-là, tu sentais qu'il
survécu à ça. En plus, même la scène de l'hôpital, j'ai trop kiffé. C'est n'importe quoi, mais j'ai trop kiffé. Comment il explose l'hôpital, là, c'est n'importe quoi.
Attends, Jacques.
Ah, moi, il y a trop de scènes qui m'ont marqué, mais si je devais en choisir une. Je pense que c'est lorsqu'on voit le visage à l'hôpital de Dent.
Ah, quand il se retourne
et que tu vois que tu comprends que c'est double face. Parce que moi, j'avais pas l'info. Mmh, parce que l'univers Batman, ça m'était étranger. Et là, lorsqu'il tourne sa tête, que tu fais le rapprochement avec sa pièce et que tu vois sa tête complètement cramée, tu dis ok, ça va être double face.
D'accord.
Et là, t'attends de voir un petit peu ce qu'il va apporter à l'histoire. Et moi, c'est une chaîne qui m'a fait kiffer et marquer.
Et toi, Fexta ?
Pour moi, le twist le plus important, c'est quand même quand il donne l'adresse. Quand il donne les adresses et que tu vois Batman, il fonce pour aller sauver sa copine. Il voit qu'il sauve le bug, en fait.
Ah ouais.
Et tu vois, il est trop triste.
Vrai,
et sa copine, elle meurt, etc.
Ah ouais, mais tu vois, en fait, ça, c'est maintenant que tu me fais capter ça. J'avais pas capté qu'il est que...
Bah si.
Ah ouais.
Il a inversé.
Il a inversé les adresses.
Tu sais, moi, j'ai pas capté ça. Moi, j'ai compris ça comment ? J'ai compris ça en mode, ok, il lui a donné les adresses, mais que Batman a fait
le
choix de choisir Dent.
Non, c'est ça qui est d'autant plus dur.
Ah, mais j'ai mais
d'autant plus dur que ouais, en plus. Et après, bah après la lettre, quand Alfred y trouve la lettre
oui.
et qu'il la brûle et tout, c'est pour vas-y, en mode.
Ah, Alfred, il a été très bon sur ce coup-là.
Parce qu'en gros, tu sauves l'amour de ta vie ou tu sauves...
Le sauveur de Gotham.
Moi, je pensais qu'il avait choisi de sauver...
Non.
Ah, même pas.
Bah, non.
C'est pour ça qu'il est dégoûté quand il porte à la fin. Il est yom de ouf.
Ah, mais après, un truc de fou.
C'est là que tu te rends compte que le Joker, en fait, pour moi, dans le film, il a gagné. Parce que
il a tué Dent.
Il a tué la.
Il a tué le sauveur de Gotham.
Exactement.
Il a retourné Dent. En fait, il voulait même pas le tuer. Il voulait le rendre comme lui.
Ouais, exactement.
En fait, le but du Joker, c'est pas de tuer les gens de Batman.
Non, c'est pervertir.
Il veut
les rendre méchants.
Il veut les rendre comme lui. Et il sait que Batman, en fait, il est à deux doigts d'être comme lui, en fait. C'est quasiment les mêmes mecs, en
réalité.
C'est juste que le Joker, c'est un mec qui est passé de l'autre côté. Et il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à accepter que Batman, il ne veut pas franchir le pas. Il lui dit, mais viens avec moi. Pourquoi
c'est
tu ne tues pas
ça,
pourquoi,
dit, ouais,
pourquoi tu crois que tu es meilleur que moi, etc. Et pendant tout le film, il essaie
il
de pousser à
de
bout. Il veut lui faire faire des choix de ouf. Il veut vraiment que le Batman, parce que le Batman, il ne tue pas. Tu vois.
Il veut vraiment
que le Batman, il passe le pas et qu'il devienne comme lui.
Non, j'avoue, j'ai pas capté ça.
C'est un mind game de fou.
Non, mais ça, c'est un twist de fou.
C'est vrai que cette scène-là m'a rendu trop triste. Alors, donc, c'était trop mal pour Batman.
Ah non, j'avoue. Bon, moi, j'avais pas compris ça comme ça, du coup. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment lourd. Alors moi, c'est le moment où Gordon réalise que, en fait, le Joker voulait se faire attraper. Et qu'il voulait être dans le commissariat à ce moment précis. Et que quand il fait sonner son téléphone, là, il dit je vais passer un appel et tout. Mais je comprenais pas. Tu vas appeler qui te connaît, toi, qui va venir te sauver. Et qu'en fait, il appelle, ça sonne dans le ventre du gars et ça explose. Je me dis, ah non, mais le gars, il est trop chaud. Il sort comme ça, il prend une voiture de police, il met sa tête dehors et tout. Et je me dis, ah non, mais le gars, il est trop. Comment ils vont faire? Ça, je me suis dit, mais comment ils vont faire? Le gars, il est trop, c'est un génie du mal.
Ouais, c'est vrai, niveau image, même cette image-là, je l'ai.
Et à chaque fois, tu crois l'avoir, il s'échappe. Et à chaque fois, il te sort un truc encore plus dingue, tu vois? C'est là que je me suis dit, ah non, mais les gars, ils vont avoir du mal. Et d'autant plus que c'est à ce moment-là que tu comprends que Dent, tu pensais que c'est bon, ça a été, il s'est fait passer pour Batman, on l'a attrapé, etc. Il partait voir sa femme. Et finalement, non, gars, ton Dent là, il n'est pas parti là où il devait arriver.
Ah ouais.
On l'a attrapé en cours de route et il est à quelque part, tu ne sais pas où il est. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah non, là, Joker, c'est chaud. Ah ok. Et donc, dans ce film, du coup, c'est quoi les points positifs, tu vois, parce que on a tous kiffé le film. Et finalement, du coup, pourquoi on a kiffé ce film, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on adorait ce film? D'autant plus que nous, on n'aimait pas Batman de base.
Bah, comme je l'ai dit, l'alchimie entre le Joker et son univers, Dent qui clairement incarnait super bien l'espoir de Gotham, parce que tu comprenais ce qu'il voulait faire et il n'avait pas peur. Il y allait, lorsqu'il se fait pointer l'arme au procès, qu'il retourne l'arme en mode vas-y, tac, tac, tu vas faire quoi maintenant? Incroyable. Il a des petites répliques cool. Il y a Batman qui l'adoube à contre-cœur, mais il se dit ok, moi je suis le mec de l'ombre, mais Dent il va prendre la lumière et puis il va être en mesure de sauver Gotham aux yeux de tous. Gordon, pareil, personnage secondaire, mais même les personnages secondaires, ils ont réussi à apporter une certaine épaisseur au film. Un Gordon qui, quand tu penses qu'il est décédé, ça te touche.
Grave.
Ça te touche. Et quand tu le vois revenir, t'es là, bouah, comme s'il butait la Coupe du Monde. Alors que c'est Gordon, tu vois. C'est le mec qui met le bat-signal et derrière, il fait pas grand-chose.
Et franchement, il arrive à un moment hyper important, parce que, enfin, quand il revient... C'est un moment hyper important, parce que c'est un moment où je commençais à me dire « Oh non, Batman, il me saoule. Je comprends pourquoi il me saoulait. » Parce que ce moment-là où il revient, Gordon, c'est il est face au Joker, Batman, et il doit normalement écraser le Joker parce qu'il fait ses folies-là. Et le gars, il fonce sur moi. Batman, il fonce, il fait genre, et il dévie, et puis finalement, il tombe. Et là, le Joker, il tabasse comme un ouf. Et je me dis « Mais gars, Batman, arrête. On va pas t'attraper comme ça pour rien. » Et déjà, j'étais vénère. Je me dis il a gâté. Je me dis, il a gâché. Tout ça pour ça, il a gâché. Fallait l'éliminer, lui. Et finalement, c'est là que Gordon, il vient et il sauve Batman. Je me dis, ah yes.
Ouais, heureusement, il est sur le terrain de façon héroïque.
Là, je garde pas le seum contre Batman. Flexta.
Mais c'est exactement ça, en fait. Le Joker, il ne veut pas. Il accepte pas que Batman ne le tue pas à ce moment-là. Il dit, mais gars, là, je m'offre à toi. Mais il savait qu'il allait pas le faire. Parce qu'il connaît.
Bah oui, il connaît
Batman et il sait que ce mec-là, il ne veut pas tuer. Il veut pas devenir c'est comme ça. Le Joker. Donc il veut pas se détourner de son code de conduite. Pour moi, la raison pour laquelle vous avez kiffé ce film-là, c'est que ça a réhabilité Batman à vos yeux, parce que déjà, le film, il n'y a que des scènes iconiques.
C'est ça, ouais. Oh,
tu vois, le Batman, il est beau, il est charismatique. Tu vois, le Joker, il n'y a que des scènes. Là, tu penses à 1000 scènes. Des scènes, elles sont incroyablement belles.
Ouais,
le Joker, quand il marche, le Joker, quand il sort de la voiture, Batman, quand il saute, le Batman, comment il se bat, c'est son style de combat, etc. Là, tu commences à te rendre compte, tu te dis, en fait, il gère le Batman.
Ouais. Et
le fait qu'il ne lui donne pas ce qu'il veut, mais... Pour moi, il y a une autre grille de lecture. Il y a toujours une ligne de lecture. Bon, tu vois le film, tu vois les explosions, tu vois l'intrigue, etc., etc. Maintenant, sur un plan philosophique, si tu regardes bien ce film-là, c'est là que tu vois que Nolan, il est très fort. C'est que ce film-là, il est un peu construit sur un terme un peu christique. Je ne sais pas si vous êtes dans la religion. Bon, je ne suis pas plus religieux que ça, etc. Bon, on connaît tous un truc. Mais en gros, le Gotham, c'est Babylone.
D'accord.
Le Batman et Harvey Dent, ils représentent chacun... le côté lumineux et le côté sombre, mais de la justice.
D'accord.
Où les mecs, ils veulent... ils représentent un symbole, un espoir fort. Et genre, si eux sont là, on peut avoir de l'espoir. Gotham n'est pas complètement foutu. Okay. Et le Joker, dans sa folie, c'est le diable qui essaie de tenter ces mecs-là. Comme, tu vois, dans la Bible, on dit que le diable a tenté Jésus, etc. Okay. etc. Il a dit, vas-y, tiens, il y a de l'oasis, il y a du jus. Tu vois ce que je veux dire? Et le diable, il n'arrête pas d'essayer de tenter Batman, et il réussit à retourner Dent. Déjà, il a sa victoire, mais il n'arrive pas avec Batman. Et jusqu'à la fin, il compte sur l'égoïsme des gens, enfin, sur les vides instincts des gens, quand il fait...
le bateau.
Avec le ferry, vas-y, faites sauter les autres, faites sauter les autres, etc. Et lui, il est sûr que les gens vont le faire. Les gens, on est à Gotham, les gens ne sont pas des gens bien, pour rester polis, et ils vont le faire. Et il voit qu'il ne le fait pas. Et tu vois, c'est le seul moment où tu te rends compte que pourquoi ils le font pas ? Après, Dieu, c'est pas grave, j'avais prévu le truc.
C'est pas grave, il avait prévu le truc. C'est grave.
Tu vois, donc il y a ce plan-là aussi où tu te rends compte que les mecs, il y a une note d'espoir en fait.
Ouais.
Tu te rends compte que l'humanité, elle est pas complètement foutue, elle est pas complètement sombre. Et il a fallu un mec qui est presque comme le Joker en fait.
Pour
le battre.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y a ce degré d'écriture-là, c'est vrai. Et donc, s'il y avait des points négatifs que vous deviez mettre pour ce film, qu'est-ce que vous trouveriez à dire de négatif ?
Moi, parfois, il y a des combats, je trouve ça trop brouillon. C'était le moment, je sais pas, au bout d'un moment, ils sont dans un tunnel, quand il a la Batmobile, ils sont dans des camions.
Ah oui, ces trucs-là.
C'était archi brouillon. Moi, il y a des scènes...
T'as pas compris ce qui se passait, quoi.
Ouais, c'est trop brouillon, ça va trop... Tu vois, c'est pas distingué.
Tu vois, c'est surprenant parce que moi, j'aime pas tout ce qui est course-poursuite de base, mais celle-là, je l'ai trouvé...
Incroyable.
Incroyable.
Ah ouais. Incroyable, ça.
Il y a juste le moment où il crache la voiture et il part en moto. Là, j'ai kiffé.
Même les moments où il sort en tentant.
Oui, quand il sort la moto, là, c'est stylé. Mais sinon, tu vois la scène là dans le tunnel, c'est brouillon. J'ai pas.
Non, mais t'as le Joker aussi qui. Il y va avec le pistolet, ça donne rien. Il change, il prend un fusil, ça donne rien. Après, il sort le bazooka.
Bazooka. Ouais.
Enfin, ils arrivent à mettre de l'humour à des endroits où normalement t'en mettrais pas et ça passe suffisamment crème pour pas que ça te sorte du film, moi je trouve. Moi, le point négatif, et pour autant je savais que c'était comme ça, mais je vais te prendre le Batman de Schneider. Batman de Schneider, il est vieux, il a de la bouteille, et malgré tout, sa boîte Batman, il tue.
Non, il tue pas.
Si, les Batman de Schneider, il tue.
Il tue des parademons, mais il tue pas
des
humains.
Non, si, il a tué des humains. Le Batman de Schneider a tué des humains.
Mais des humains de quoi ? Ah, dans le rêve qu'il fait, là.
Non, même pas, je sais plus à quel moment, mais je sais plus, mais à un moment donné, je pourrais mettre ma main à couper qu'il tue des humains, pour quelles raisons ?
Des méchants, genre ?
Oui, des méchants.
D'accord, ok.
Et moi, ce qui me manque, et je comprends pourquoi le Batman ne le fait pas, mais Batman, c'est... Quand t'as Joker qui t'a fait tout ça, tu peux pas ne pas le zigouiller. Tu peux pas le laisser pendu à une ficelle pour aller récupérer Dent. Tu peux pas.
Ah oui, quand il a récupéré à la fin, là.
Et même si je sais que c'est le message et que c'est normal pour le Batman d'agir comme ça, j'étais frustré. Je me suis dit, c'est pas possible.
Non, c'est vrai qu'à la fin, là, quand il doit passer dans le vide et qu'il rattrape avec un câble,
c'est ça.
Dit, ah, mec.
Mais je comprends le pourquoi. Hein. Je comprends le pourquoi il l'a fait, parce que si jamais il le laissait mourir, le Joker gagnait, entre guillemets.
Aussi, ouais.
Mais je pense que personne ne l'aurait voulu, parce que derrière, ce qui se passe, c'est qu'on l'a accusé d'avoir tué 3 personnes alors qu'il a rien fait.
Ouais.
Donc en vrai, autant limite le faire vraiment avec un psychopathe.
Non, mais justement, parce que c'est ça qui est fort. Moi, j'ai bien aimé ça.
Ouais, mais tu vas l'enfermer,
c'est le message,
le gars, il va
comme
sortir.
T'as dit, c'est le message. C'est, il endosse le truc parce qu'il leur faut un héros. Et héros, ça regroupe ça.
Mais ça, je l'entends.
Ça regroupe le fait, tu vois.
Mais en vrai, tu rajoutes le Joker dans le panier.
On est encore dans cette figure christique, biblique, dis-le comme tu veux. il se sacrifie à la fin.
Ah ça, mais ça, je trouve ça super beau.
Il se sacrifie à la fin, genre, comme un truc, là, je suis mort pour vous, etc.
On va nanana, il dit ok, c'est parti.
Et je te dis, c'est un mind game. S'il tue le Joker, en fait, je deviens comme lui.
Ouais, mais...
Et Batman, ce personnage, il écrit comme ça. Il ne tue pas.
Je sais, mais...
C'est ce qui le rend relou, des fois.
Bah c'est ça, t'emprisonnes 50 fois le gars, à un moment donné, bon, on en finit, parce qu'à côté, le Joker, il fait un milliard de morts, lui, il est dans sa folie. Donc moi, c'est ce qui m'a un petit peu frustré, même si je comprends le pourquoi du comment.
Et toi ?
C'était quoi la question,
déjà ? Est-ce que t'as un point négatif dans ce film ?
Il y en a quelques-uns. C'est un peu un défaut de Nolan. Après, c'est des fois le montage qui veut ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et des fois il y a des personnages qui sont pas vraiment développés.
Ouais.
La pègre et les Maroni, tout ça, ils sont pas assez développés. On les voit.
C'est juste pour te faire une petite pique pour ceux qui connaissent, je pense.
Alors oui. Rachel, ils ont changé d'actrice du premier au deuxième film. Moi, je préférais Cathy Holmes.
Mais je crois qu'elle avait un problème de planning.
Bon, là, c'est surtout ses soucis quand elle était avec Tom Cruise. Tom Cruise, etc. Mais moi, je la trouvais pas belle, je la trouvais pas charismatique, etc.
Non,
la
Joker, elle était
belle, etc. J'ai dit, non, Joker, elle est pas belle.
Ouais.
Non. Non. Enfin, bref, il manquait ce... Tu sais, c'est l'histoire d'amour du film. Mmh. Normalement, tu dois comprendre l'alchimie, je trouve que ça fonctionne.
Ouais, ah, je suis d'accord.
Parce que ça, je crois que c'était fait exprès. Ouais, je crois que ça s'était fait exprès.
Moi, je sais pas. En tout cas, peut-être.
Mais je sais pas si
elle s'en foutait
plus parce qu'à la fin, elle dit qu'elle choisit, mais je sais pas. J'ai pas capté aussi. Ah, ça, en vrai, c'est l'ego. Hein.
Mais déjà, tu penses que l'ego va aller faire un milliardaire là pour aller prendre un procureur? Même dans les films de science-fiction, on n'y croit pas.
D'autant plus quand elle est pas hyper, tu vois.
Non, mais.
Hyper par rapport à Katie Holmes, effectivement, ce qu'il disait, c'est vrai, tu vois. Il y a un décalage, tu vois.
Mais en fait, le truc, il fonctionne pas. J'y crois pas. Leur alchimie, leur histoire d'amour, j'y crois pas. Après, il y a plein de personnages secondaires qui rendent le film très dense, c'est bien. Mais le Joker, des fois, il fait des trucs, c'est Sangoku, tu vois. Il se bat avec des mecs, il met à peine un coup, le mec, il meurt. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des trucs un petit peu plus de... Moi, j'aime bien quand il fait preuve d'ingéniosité. Mais quand tu essaies de me faire croire que le mec, il a une force surhumaine, non. Tu vois
en
ce que
vrai,
je veux dire.
Quand on parle d'ingéniosité, ça me fait directement penser au... En vrai, on n'a pas parlé, mais la scène du début, le braquage, c'est incroyable.
Ah oui, le braquage, incroyable.
Il emploie chaque personne pour tuer la présidente, et à la fin, c'est lui le dernier. Mais c'est trop, tu vois.
Oui,
là, tu te dis, ah ouais, là, tu commences dans un film de fou direct, tu vois.
C'est vrai, que cette scène-là, elle est
forte.
Et cette scène-là, ce qui est marrant, c'est que je ne l'avais pas vue initialement, parce que le jour où j'ai vu ce film au cinéma, j'arrive en retard. Et donc, j'ai raté cette partie du braquage.
Ah ouais, t'as raté.
Et donc, quand je l'ai revu, là.
Incroyable.
Waouh, c'est quoi cette scène? J'ai raté cette scène. Moi, je m'en souviens très bien. J'ai commencé juste après, en fait. Quand je suis arrivé au cinéma, j'étais juste après ça. Et donc, j'ai raté cette scène-là. Et je me suis dit, ah ouais, donc, genre, les premières minutes du film, c'était déjà dingue.
Ouais, dès le début.
Tu vois, j'ai raté ce truc-là. Non, ça m'a marqué. Moi, effectivement, pour les points négatifs, c'est ce que tu dis, c'est que moi, tu vois, pareil, j'avais pas toutes les notions de tous les antagonistes, etc., mais je connaissais l'épouvantail, tu vois. Et au début, il est là, tu vois, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire parce que
on l'avait vu dans le 1.
On l'avait vu dans le 1 ?
Ouais, dans le 1, il était là de mémoire dans Begin.
J'en sais un plus, mais en tout cas, je m'attendais à ce qu'il soit, il ait un rôle un peu plus important que ce qu'il a eu, tu vois.
Ouais,
et puis même, ce qu'ils ont commencé à teaser avec les faux Batman aussi, je m'attendais qu'il y ait un peu plus de trucs sur ça, tu vois. Parce que c'est un problème, des gens qui se prennent pour Batman alors qu'ils sont pas Batman et qui font n'importe quoi.
Mais c'était que c'était Joker qui avait attrapé un des faux Batman.
Oui, il avait
zigouillé. Il a calmé tout le monde.
Ça a calmé. C'est vrai, t'as raison. Il y a eu ça. Les gens, ils se sont déchauffés.
Ah oui. L'aime de ouf.
Ça, c'est vrai. Et du coup, il y a quand même des scènes d'action dans ce film. Et j'aimerais savoir, parce que moi, de base, je ne suis pas hyper dingue des films d'action. C'est-à-dire que, exemple tout bête, hein, Fast and Furious, j'en ai vu zéro, tu vois.
Ok.
J'en ai vu zéro.
Oh, t'abuses.
Non, mais j'abuse. Mais en fait, tu vois, c'est pas... j'aime bien l'action, hein, mais je ne suis pas un fou de films d'action, tu vois. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que le film, je le trouve ouf. C'est l'histoire, c'est plein de choses comme ça. Mais dans ce film-là, il y a des scènes d'action qui m'ont marqué. J'aimerais savoir si vous, il y a une scène comme ça qui vous revient où vous dites, non, cette scène-là, elle est dingue.
Non, il y en a plusieurs, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vrai que la scène que Jean-Marc n'a pas aimée avec le camion, le Joker, le camion de police
dans le tunnel,
j'ai trouvé, je déteste les courses poursuites de base, je trouve ça long, fatigant, enfin pas d'intérêt. Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je voulais savoir comment ils allaient se dépatouiller de ce truc-là.
Mm-hmm.
Donc
ouais,
moi,
ouais.
Cette scène-là, je la trouve bien.
Flexa.
Cette scène-là.
Ah ouais, toi aussi.
Franchement, elle ressort du lot. De toute façon, le film a été vendu là-dessus déjà. Ah, okay. C'était le money shot, tu vois, il y a toujours un money shot. On met dans le trailer pour te montrer, voilà, le budget est parti là-dedans. mais surtout, quand tu connais Nolan et tu sais comment il travaille, il n'y a pas d'effets spéciaux. Tout est authentique.
Ah ouais?
Mais Nolan, il n'y a pas d'effets spéciaux. Regarde, dans Tenet, c'est un vrai avion qui fait vraiment exploser, c'est un vrai Boeing qui fait exploser dans un vrai terminal, etc.
Ils sont vraiment repartis dans le passé.
Non. Mais il n'utilise pas d'effets spéciaux dans ces films-là. Et du coup, en fait, comme il avait été rentable avec Begins, avec d'autres films... ils lui ont donné plein de camions. Vas-y, entraîne-toi, fais tes trucs. Il y a même un mec, il y a même un cascadeur qui est mort pendant le film.
T'es sérieux?
Dinguerie.
Les films de Nolan, c'est pas de la blague. Hein. C'est des films très très sérieux, très documentés. Ouais. Et c'est des films. Le mec, il met pas d'effets spéciaux dans ses films, ou très très peu, tu vois.
Tu vois, j'avais pas ce background là.
Très peu.
Ah ouais,
c'est-à-dire que c'est des décors naturels, des cascadeurs, des trucs. C'est vraiment un casse-cou.
Ça rend la scène encore plus.
Ça rend le film encore plus incroyable parce que tu te rends compte que tous les angles qu'ils ont réussi à avoir, la ville, le machin, etc. Non, ça c'est un mec qui a vraiment une vision.
Ouais.
Et le mec qui t'emmène dans sa vision, et lui, c'est tout ou rien.
D'accord.
Autre chose, c'est l'un des premiers films à être tourné en IMAX. C'est-à-dire que là, demain, là, t'as une télé 8K, le film, tu peux l'avoir en 8K.
D'accord.
Et à savoir qu'à l'époque, ça se faisait pas, il y avait que 3 caméras IMAX dans le monde.
Ah ouais.
Il a pris les 3.
Eux, ils ont fait une dinguerie, je crois, avec une caméra. En fait, ils l'ont mis avec un bras là, tu vois, un ras du sol pour faire justement la scène de la course poursuite. Et la caméra était trop lourde, ça fait une cinquantaine de kilos. Du coup, ils ont cassé la caméra. Du coup, l'autre caméra IMAX qu'il y avait dans le monde, elle était utilisée pour un tournage d'un documentaire ou je sais
mais
pas quoi
non.
là. Tu sais, les documentaires, des fois, quand ils arrivent à faire des trucs bien précis.
Ouais, ouais.
Du coup, ils sont partis, ils ont payé le documentaire pour qu'ils arrêtent le tournage.
Oh ouais, non, c'est
on vous paye, on emprunte la caméra, on termine le film, après on vous la...
Ah ouais.
Ah Nolan, j'avais pas, c'était assez
Nolan,
délire,
c'est un fou.
Lui, hein.
C'est les premiers films en IMAX, etc. C'est pour ça qu'en termes de visuellement,
ouais,
on a pris une claque.
C'est vrai que c'était beau de ouf.
Attends Jean-Marc, scène d'action.
Scène d'action? Moi je l'ai donné ma scène d'action.
Ah ouais, c'est laquelle?
C'était l'hôpital, non?
C'est pas une scène d'action ça?
Ah non, c'était le braquage du début.
Ah, le braquage du début.
Incroyable.
Okay.
Braquage du début, pour moi, elle était... ça te rentre dans le truc direct.
C'est une scène d'action, mais qui est brève, mais c'est juste, je ne m'attendais pas et j'ai trouvé ça dingue l'idée. C'est quand Batman, il va à Taïwan, là, et il va choper le banquier, là.
Ouais, le banquier.
Et qu'il explose les vitres, et tu dis, bon, mon gars, je sais que t'es le mec des câbles. Mais là, tu vas sortir où? Là, t'es dans un building, tu peux pas aller nulle part. En vrai, là je dois montrer comment tu vas faire. Et le gars, il met son grappin sur un avion.
Ouais, c'est vrai que.
Et l'avion embarque, il part comme ça. Ouais, le timing! Tu vas me dire, cette scène-là, il a fait pour de vrai? Parce que c'est une scène de malade,
tu te rates. Franchement.
Parce que tu te rates, t'es mort!
Non, mais bon, il y a sûrement des effets spéciaux, il y en a très peu. Mais tu sais que cette scène-là, là. Les Chinois, ils n'ont pas apprécié. Et le film n'a pas été diffusé là-bas.
Ah ouais? Pourquoi?
Pas parce que tu débarques dans notre pays comme ça, tu viens,
tu me fais la
etc. Et ils sont partis vraiment à la tournée là-bas, etc. etc. Et à cause de ça, ils se sont fermés le marché chinois.
Ah mince!
Mais Nolan, pourtant, je pense qu'ils le savaient, mais ils ont dit, on s'en fout, on fait notre scène, etc. Mais
ils sont privés du marché chinois.
Marché, hein.
Mais bien
ce que je trouve cool aussi, c'est que c'est très rare, mais là, ils ont réussi à ancrer, parce qu'ils sont à Gotham, donc Gotham, c'est une ville fictive, ils ont réussi quand même à l'ancrer dans le monde.
Tu peux croire que c'est une ville qui existe vraiment?
Oui, et puis ils parlent de Taïwan, comme si, en fait, Gotham, c'était une ville. Quelque part.
C'est ça qui est bien, tu l'imagines
après,
bien.
Après, Gotham, c'est une allégorie de Chicago.
Ah oui. Ouais? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que ça, les majorités, ils ont été à Chicago, les autres.
C'est une allégorie de Chicago quand tu vois Chicago, ce qui s'est passé avec la bande de Chief Keef et tout, à l'Adril, etc., etc. En vérité, c'est vraiment Babylone là-bas, en fait.
Ouais, dans Chicago,
c'est comme s'il y avait un esprit maléfique qui règne sur la ville, qui fait
toi
que.
Toi-même, t'as vécu à Chicago, donc.
Chicago, c'est un délire.
Toi-même, tu savais que tu peux pas avoir ça n'importe où quand
la ville est comme ça, en fait. Ouais, c'est vraiment une ambiance.
Mais
sombre.
Autre chose dont qu'on oublie de parler quand on parle de ces films-là, la musique.
Ah ouais?
Ouais, moi j'ai trouvé ok, mais elle m'a pas transcendé. Dans le sens où j'ai été. Je trouve qu'elle accompagnait bien le film, mais je me souviens pas d'une scène avec la musique en me disant waouh, cette scène-là, elle m'a transporté. parce que la musique.
Moi non plus.
Moi non plus.
Bon, en fait, ça fait un tout, en fait.
Ouais, ça fait une ambiance.
C'est un tout.
Ouais, c'est l'ambiance,
tu
ouais.
vois.
Ouais.
Parce que la musique, Hans Zimmer, voilà, c'est un ouf. Oui, il arrive à bien mettre de la progressivité dans ses musiques.
Ouais, non, tu vois.
C'est un des maîtres en matière. De toute façon, c'est l'ambiance.
Mais tu vois, comme ça, il n'y a aucune musique qui me vient en tête, tu vois. Alors qu'il y a plein de films où j'ai la musique en tête, tu vois. Là, c'était OK. Quand ça passait, je voyais que c'était habillé.
T'as le thème principal, après, la prochaine fois que tu le regardes, ouais. écoute la musique.
Ouais, je ferai attention.
Et comment ça match les scènes, etc. etc.
Oui, dis, ça c'est sûr.
Pour,
oui,
c'est
ça
pour
c'est
ça que les Américains, en fait, c'est les plus chauds. Parce qu'en termes de musique.
Ah, ils laisseraient au hasard.
Dans les films français, il n'y a pas de musique, t'entends le bruit des pas. C'est une musique, un truc, etc. C'est grandiose. Enfin, c'est un tout, mais vraiment, c'est très important de le dire. C'est un grand réalisateur, ça fait la différence.
Ah. Quand tu sens
un maître réalisateur, un mec qui est vraiment maître de son art. Qu'un mec reconnu, un Tarantino, un Scorsese, etc.
C'est vrai que c'est
comment il dirige les acteurs, comment les acteurs ils se donnent dedans, enfin dans toute la trilogie.
Non, c'est comme t'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont une vision, ces mecs-là. C'est une vision et il n'y a personne qui va les dissuader. Tu vois.
Alors, comme d'habitude, tu sais, nous, quand on était gamins, à chaque fois, soit on prenait un personnage et on disait, bon, toi, t'es quel personnage du film ou du dessin animé? Ou finalement, quel personnage t'as préféré? Donc là, on va peut-être plutôt celui qu'on a préféré, parce que je pense que là, personne ne veut s'identifier aux gens de Gotham, tellement ils sont bizarres. Donc ça va être quel personnage on a préféré, pour X ou Y raison, et vous allez dire vos raisons. Jean-Marc, c'est qui que t'as préféré dans ce film?
Moi, comme je l'ai dit au tout début, Joker. Hein.
Okay.
Joker, honnêtement, pour moi, sans faute, le jeu... En fait, moi, sur tous les films, c'est le jeu d'acteur qui me marque le plus. Chaque fois que je regarde un film, si vraiment pour que je sois fan du film, c'est le jeu d'acteur.
Du coup, parce que moi, Joker, oui, je comprends son jeu d'acteur et tout, mais moi, il m'énerve.
Il m'énerve pas. Ouf, tu vois. En fait, pour, tu vois, quelqu'un qui il incarne tellement le personnage que pour moi, c'est lui. Et il est comme ça. Tu veux faire quoi? Tu vois ce que je veux dire?
Mais du coup, moi, je l'aime pas, tu vois.
Ah, tu peux ne pas l'aimer.
Donc,
mais il est comme ça.
Donc, ça peut pas être mon personnage préféré si je l'aime pas. Tu vois ce
que
je veux dire?
Non, moi, je l'aime. Moi, je l'aime.
C'est ça que je voulais t'entendre dire.
Moi, je l'aime.
Le gars, il aime le Joker.
J'aime dans la fiction, gars.
Le gars, il aime le Joker. Attrapez-le sur les réseaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime le Joker ici?
Moi, j'aime le jeu d'acteur. Il est incroyable. Et pour moi, c'est lui. C'est lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, sans lui, il n'y a pas ce film.
Jean-Jacques.
Moi, j'ai longtemps hésité. Parce qu'il y a pas mal de persos, comme vous l'avez dit, mais je vais partir sur un perso qui n'a pas beaucoup de scènes, partir sur Alfred. Partir sur Alfred parce
Lamborghini,
que...
Lamborghini, monsieur.
Plus subtil. À chaque moment où il intervient juste. Il connaît son petit et il sait ce qu'il doit lui dire, comment il doit lui dire pour que ça fasse mouche. La lettre, si c'était juste un employé lambda... Bah, il n'aurait pas fait de vague, il aurait mis la lettre et puis advienne que pourra. Là, il savait que dans la psychologie du bonhomme, s'il remettait la lettre, c'était fini. Il savait qu'il fallait qu'il donne l'histoire de du fou qu'ils avaient pourchassé, qui lançait les rubis parce qu'en fait, ça n'avait aucun intérêt pour lui, pour que Batman arrive un petit peu à saisir face à qui il avait affaire. En fait, c'est un petit peu la petite voix dans sa tête qui l'oriente lorsqu'il est perdu. Et je trouve qu'il a hyper bien incarné le perso.
Ouais, très très bon choix, j'avoue. J'ai pas pensé à Alfred, parce que comme tu le dis, il a pas eu énormément de scènes en vrai. Mais ouais, je comprends ton choix. Très très bon.
Bah, Alfred, c'est le seul mec qui le rend encore humain.
C'est vrai qu'il le remet sur
terre. Il ancre, c'est son point d'ancrage.
Flexa, toi c'est qui ton perso préféré du coup?
En fait, c'est pas. Je peux pas mettre un perso préféré. Pour moi, c'est la dyade là, la dyade dans la force là, tu vois, de Batman et son arc némésis, Joker. En fait, quand tu penses Batman, tu penses Joker.
Ça, c'est les deux quoi.
En fait, c'est
l'alchimie des deux là.
Leur relation entre les deux là, leur mind game là.
D'accord.
Okay.
Leur mind game à eux deux là, c'est comme si ça représentait
un
espèce de personnage invisible. Tu vois ce que je veux dire? Ce combat psychologique de je veux pas passer de ton côté. Mais je sais que tu me comprends, je sais que tu me perces à jour. Et moi, je suis sûr que... Enfin, bon, pour moi, Joker, il sait que Batman, c'est Bruce Wayne. Je sais pas s'il y a une scène ou je sais pas quoi.
C'est sûr qu'il
pour
le
moi,
sait.
Il le sait. Mais
non,
il le sait. Moi, j'ai l'impression qu'il le sait.
Il
sait. Moi,
il essaie d'ouvrir, il prend un coup de jus, gars.
Non, c'est pas lui qui a essayé d'ouvrir.
C'est un de ses gars.
C'est un de ses gars qui a essayé d'ouvrir. Et finalement, il aurait pu l'ouvrir et il a fait, je crois, non, vas-y, tu sais quoi.
Ou bien, s'il ne le sait pas, ça ne l'intéresse même pas de le savoir.
Ça l'intéresse pas.
Parce que c'est même pas la personne en vérité.
Mais si, parce qu'au début, il a commencé par un chantage.
Non, mais c'est pour l'embêter.
C'était pour l'embêter.
Parce que quand il a pu le savoir, Quand il y a un gars de qui voulait balance, il a dit hé, lui là, on va le zigouiller. Je veux pas savoir qui est Batman finalement, ça m'intéresse plus. Zigouiller.
Moi, je pense qu'il le sait, mais qu'il veut pas que tout le monde le sache.
Moi, je pense qu'il s'intéresse même pas en vrai, il s'en fout.
Ça m'intéresse même pas, c'est vraiment ce truc, ce qu'il représente en réalité.
Ouais,
et
ça.
Petite mention pour le personnage de Morgan Freeman aussi.
Ouais.
Donc, comment il s'appelle déjà?
Je sais plus comment il s'appelle.
Winston ou Dox, enfin bref, j'ai oublié.
Mais je te... Ouais, mais lui, mais
j'aime bien son personnage parce que tu sens qu'il est complice de Bruce Wayne et en réalité, c'est peut-être lui qui fait Batman en fait.
Ouais, aussi, quand en fait, c'est Alfred Delluy d'un côté. C'est Alfred Delluy, je trouve, qui le drift.
Qui le canalise.
Comme quand l'autre, il veut le balancer là.
Ah oui, et qui lui dit un mec qui sort la nuit.
Exactement.
Vraiment, tu mets un gars comme ça à dos.
Le gars, bon courage.
Milliardaire. Qui se... Mais les gars, réfléchis.
Le gars, il a acheté la
carte. Il a douté d'où.
Mais tu vois, excuse-moi, je termine là-dessus. C'est qu'il y a plein d'intrigues qui sont lancées et qui ne sont pas résolues à la fin du film. Tu vois.
Mais ça, c'est bien
peut-être
à côté,
le montage, non. C'est peut-être le truc. Mais c'est le problème des films de Nolan. Des fois, il y a plein d'intrigues secondaires.
Libre cours à ton imagination, quoi.
Ah, mais tu commences un arc, tu commences un truc avec un personnage, on commence à s'y attacher et bon, après on l'oublie.
C'est vrai.
Et toi, Jean-Louis ?
Moi, c'est Batman. C'est Batman et c'est fou parce que vraiment, Batman, pour moi, c'était personne en vrai avant. Et j'ai tout adoré, ce personnage. C'est-à-dire que même à la fin, la lucidité qu'il a eue de dire « Ok, c'est vrai que Dent, il a déconné, il est passé du côté obscur. » Mais venez, on ne laisse pas gagner Joker, on dit que c'est moi qui ai fait ça. Venez, on ne laisse pas gagner Joker, on dit que c'est moi, j'ai sombré dans la folie, c'est moi et tout, cherchez-moi, pistez-moi. Mais Dent, on le laisse en disant, écoute, c'était un héros.
L'espoir de Gotham.
Voilà. Alors qu'en plus, en vrai de vrai, au fond de lui, de faire ça, c'est fort parce qu'en plus, Dent, c'est le gars qui a scoré sa femme. Tu vois,
ouais.
Donc c'est encore, tu vois, c'est vraiment, ça demande beaucoup. C'est même pas que il prend juste sur lui le fait d'assumer des crimes qu'il n'a pas commis. C'est en plus, il accorde le mérite à quelqu'un qu'il a doublé dans la vraie vie, dans la vie civile, tu vois.
Ah, mais il a accordé
depuis. Sportif, il est sportif.
C'est vrai.
Il est sportif depuis, hein.
Hein?
Même au resto, il lui avait dit, ouais, je te donne mon
soutien. Non, au resto, il taclait. Il taclait au resto.
Ah ouais?
Il taclait implicitement.
Non, on parle pas, les gars, on parle pas de la scène où il ramène la table en solo. Non,
ah, bah, là,
trop chaud.
Laquelle alors?
Non, je te dis que. Non,
à la fête, tu veux dire
à la fête, pardon, ouais, à la fête.
À la fête,
à la
pareil.
Fête, il a essayé un peu de le descendre, mais au final, il a dit non, c'est à toi que je te
dis. À la fête.
Parce que lui, il pouvait rien faire en tant que Bruce Wayne.
À la fête, il y avait une double lecture que son ex-femme a compris. C'est-à-dire qu'il envoyait des fleurs, mais il était très ironique en vrai. Tu vois?
Mais je pense qu'il finissait par y croire.
Non, je pense qu'il y croyait.
Moi, je crois
vraiment
qu'il y
croyait. Dans l'espoir.
Bah, la preuve, il s'est sacrifié à la fin parce qu'il s'est rendu compte
qu'il
ne
pouvait
pas
faire. Ouais. Bah, Bruce Wayne, il ne pouvait pas.
Non, et donc, finalement, c'est vraiment ce côté-là où, ok, je comprends ça du bout en bout et il a été vraiment. Ça a vraiment été un héros, quoi. Tu vois. Et ce n'est pas genre un héros parce qu'il a du super pouvoir avec ça, c'est un héros parce qu'il prend des bonnes décisions au bon moment et même les décisions difficiles, il les prend. Moi, j'étais vénère quand à la fin, il dit pour chasser moi, c'est moi le méchant. Je dis quoi? T'as fait tout ça et finalement c'est toi qu'on va traquer. Non, gars, Dent il a déconné, prends Dent. Il a dit non, on prend pas Dent.
Moi
Dent,
ça m'a pas vénère. Parce
ah ouais
que ça a été beau comme
ouais,
il a dit, tu vois. En mode j'incarne le truc, je suis un super héros.
Mais c'est injuste.
Pas...
Moi j'aime
je suis
pas
un
l'injustice.
Héros, tu vois,
j'aime pas l'injustice. Et le
ouais,
gars...
c'est injuste, mais il a dit en fait, en gros, Gotham a besoin d'un. Ils ont besoin d'un bouc émissaire comme ça pour avancer, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, c'est vrai.
Comme si aujourd'hui on dit, bon, on va trouver un gars, on va dire c'est lui le Covid, comme ça on va se déchaîner sur lui. Après, on l'oublie, tu vois ce que je veux dire?
C'est ce qui s'est passé.
Mais on n'avait pas choisi un gars.
Mais donc, t'as tué le podcast, t'as dit le mot interdit.
Pourquoi?
Faut pas dire ça.
Ok, et donc, finalement. Alors, avec maintenant, on a du recul, parce que ça, ce film, c'était en 2008, quelque chose comme ça,
2008.
Non 2008. Après, plein de films super-héros. Et pour vous, est-ce que cette trilogie a eu un impact? Et si oui, quel impact ça a eu sur les films de super-héros pour vous?
Moi, je trouve qu'elle a relancé la hype autour des super-héros. Mais après, quand tu regardes ce que Marvel a été amené à faire, c'est beaucoup plus coloré. C'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus tout public. Qu'un Batman où les questions qui sont posées, c'est pas binaire. C'est pas aussi binaire que ça peut être dans un Marvel. Donc ça a relancé une hype, un intérêt autour de personnages même oubliés qui auraient pu penser que les Gardiens de la Galaxie, à savoir des personnages que personne ne connaissait, en tout cas en France, puissent marcher et faire trois volets. Ça a relancé une petite hype, Donc moi je pense que ça a son mérite.
Jean-Marc, toi tu penses ?
Moi je pense pas. Hein.
T'es sérieux ?
Moi je prends pour moi parce qu'en vrai, moi j'ai regardé Batman. Batman pour moi c'était Batman. Après à côté j'étais dans les Marvel, les Iron Man, les trucs. C'était dissocié.
Ok.
Ouais.
C'était pas.
Flex, ça, toi t'en penses quoi ?
Mais ça a relancé le genre, les gars.
Ouais, ouais.
Le genre.
Bah oui, déjà.
Parce que en gros, il y avait eu les Spider-Man de Sam Raimi.
Ouais. Ouais.
Les mecs, ils savaient que dans leur contrat, là, ils ont le super-héros le plus reconnaissable de tous les temps avec Superman. Mmh. D'ici, de toute façon, ils ont les super-héros les plus reconnaissables.
Ouais.
Ils disent, mais Nolan, il est venu avec un projet sérieux. Venons, relance la franchise. Et ça a relancé le genre des super-héros. Parce que quand les mecs, ils viennent avec Iron Man, ne crois pas qu'ils n'ont pas vu la trilogie Nolan, comment ça a évolué, etc., etc. Et même, ça relance l'idée de faire des trilogies sur des super-héros, tu vois. Enfin, ça la confirme. Mmh. Ça la confirme, parce qu'il y a d'abord Spider-Man.
Iron Man.
Et là, vraiment, pour moi, c'est vraiment... parce que c'est très américain. Mmh. Les mecs, ils le font pas parce qu'ils aiment bien Batman. Ils le font parce qu'ils savent que ça va rapporter
des sous. Ah, parce que c'est de l'argent, bien sûr.
Et Hollywood, c'est un truc où, voilà, c'est des trends, les mecs, ils suivent. Le mec, ils ont vu qu'avec 3 films, ils ont retourné le cinéma. Ils sont dit, allez, nous aussi, Marvel, on a v'là les actifs.
On part sur ce truc.
Essayons de faire ce qu'on peut. Dommage, ils avaient vendu les droits de Spider-Man. Ils avaient vendu les droits de Hulk. C'est pour ça qu'il y a
l'incroyable Hulk comme ça, là.
Qui est vite fait, là, qui est sorti. Mais après, les mecs ont enchaîné avec Iron Man.
Incroyable, Iron Man.
Ça a relancé après tout le MCU et tout ce qu'on en connaît.
Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Hein. Pour moi, ça a eu un impact énorme sur plein d'axes. Premier axe, et c'est DCU, et j'écoutais un podcast récemment là, d'écran large, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle de ça, et j'ai trouvé l'analyse très très juste, et franchement, je n'avais pas vu ça comme ça, mais en fait, là, le DCU est mort, etc. Et quelque part, c'est aussi à cause de cette trilogie de Nolan, parce que pourquoi ? Parce que secondairement à ça, du coup, ils sont axés sur un axe d'univers très sombre. C'est-à-dire que le Superman était sombre. Superman, Man of Steel, c'est pas un Superman qu'on a l'habitude de voir. Le gars, il était vénère sur Superman. Batman vs Superman, c'était sombre. En fait, même leur...
L'étalonnage.
Même, tu vois, le comment c'était sombre, même le... Comment ça s'appelle
le film, là.
Ouais, mais dans quel truc ça se passe ça se voit vraiment, c'est dans Suicide Squad, voilà. Où ils ont après essayé de rajouter un peu plus de couleurs et tout ça, mais c'était sombre de fou au début. Ils ont essayé après de mettre des blagues et tout, donc ça l'a pas donné. Même le Snyder Cut, etc. C'est un truc hyper sombre, en vrai. Tu vois. Et ça l'a enfermé dans ce truc-là.
C'est pour ça que je crois que j'ai dissocié les deux. C'est
ouais,
beaucoup trop sombre.
Mais du coup...
Les Marvel, c'est coloré.
Non, mais oui, mais du coup, ça a impacté sur les super-héros qu'on connaît de Superman, etc. C'est eux les plus connus, tu vois.
Ouais.
Moi, je ne connaissais pas avant Iron Man.
Ah, tu veux dire qu'ils sont descendus en gamme et les autres...
Non, c'est juste qu'ils ont adopté une vision sombre du super-héros, tu vois. Superman, il n'était pas comme ça avant.
Ouais, super joyeux Superman.
Tu vois, c'était pas un gars comme t'as l'habitude de voir chez Snyder, tu vois. C'était un autre Superman, tu vois. Et puis ils ont réussi à bien par rapport à DC. Après, si je mets Aquaman de côté, etc. Mais ils ont réussi à bien intégrer ces super héros dans la réalité quotidienne. Tu vois, c'est-à-dire que Man of Steel, le Superman en question, ça tient la route, tu vois. Tu dis pas que c'est improbable, que c'est impossible. Vraiment, tu vois, les réflexions qui sont faites, c'est des réflexions qui peuvent être actuelles. Et même Batman vs Superman, la façon dont c'est sombre là, tu vois. Et ça, du coup, c'est à cause de cette trilogie qui a grave marché. Ils ont parti sur ça. L'autre point aussi sur lequel je trouve que ça a eu un impact, c'est que moi, c'est la première fois en tant que tel, en tout cas de souvenir, où je vois un film de super-héros où l'un des héros, il meurt. Dance, pour moi, c'était l'un des héros de ce volet. Même si après, c'est du double face, etc. Mais quand même, au début, c'était le chevalier blanc, entre guillemets, tu vois. Et à la fin, il meurt. Et pour moi, le fait qu'il décède comme ça, ça m'a piqué. Je me suis dit, ah ouais, ils peuvent faire mourir des héros comme ça. Parce qu'il y avait ça aussi. Pourquoi j'aimais pas trop non plus Batman et tout? Parce qu'ils s'en sortaient tout le temps.
Ouais, c'est le problème.
Il n'y avait jamais de casse. À chaque fois, ça se passait. Crème, il perdait rien. En tout cas, dans tous les dessins animés que j'ai vus, moi, à chaque fois, ils s'en sortaient. Et là, je me suis dit, ah ouais, ils peuvent ne pas s'en sortir. Et, bah, résultat du truc, dans Endgame. Tu vois, Endgame, la façon dont Tony Stark part. Ouais. Pareil dans Infinity War, quand Thanos il claque des doigts, la moitié des gens sont partis. Avant, je suis pas sûr qu'ils auraient fait un truc pareil, tu vois.
Je sais pas, il fallait dans Endgame, c'est obligé.
Non, mais ok, mais tu vois, héros, mais je pense qu'ils ont eu le background de ok, on peut faire mourir des héros ça va passer, les gens ils aiment
après,
ça.
Dent, après, la différence, c'est qu'il avait tourné, il avait mal tourné.
Il avait viré, c'est vrai. C'était plus Dent quand il est mort.
C'est ça la vraie histoire.
C'est vrai. Alors, du coup, maintenant, on va noter. On a l'habitude de donner une note à la fin sur 10 en fonction de comment on a apprécié le film. C'est très subjectif, ça n'engage que nous. Mais à la fin, ça nous permet de faire un classement. Et donc, Jean-Jacques, quelle note tu donnerais?
Franchement, j'ai longtemps hésité. Hein. Mais je suis parti sur un 8,5.
Ok.
J'aurais pu mettre 9.
Ouais.
Mais 8,5, ça me paraît suffisamment bien pour montrer à quel point c'est une œuvre qui doit être vue, même si t'es pas forcément fanat du concept de Batman et de super-héros. C'est un bon film en tant que film. Bon jeu d'acting, bon personnage, belle distribution, 8,5.
Jean-Marc ?
Alors, moi, comme l'a dit Flexta, t'es obligé de partir sur la trilogie. Tu vois, donc, j'ai fait un classement. Celui-là, je l'ai mis à 8. Parce que pour moi, le meilleur, c'est le dernier, c'est le 3. Je l'ai mis à 9.
Ah ouais ?
Ok.
Ah ouais, celui-là, je l'ai trop kiffé.
Ok.
Non, il est bien le 3. Moi, je suis d'avis qu'il est bien aussi. Mais il n'a pas eu cet accueil-là du grand public, je crois. Hein.
Ah ouais ?
Disons moins qu'il
celui-là,
fait le 3 que le 2.
Celui-là, je l'ai plus revu que le 2, moi.
En vérité, c'est... On était au début de l'ère du trolling. Mmh. Et les mecs, ils ont fait tout un cinéma sur la mort de Marion Cotillard. Et ça fait un bad buzz autour
de
ça.
Ah ouais, okay. Ouais, c'est bon. Vrai qu'ils ont dit qu'elle n'avait pas bien joué sur cette...
Ouais,
cette
mais moi, surtout qu'elle, a, plus, surtout qu'elle a fait mille... Tu vois, les scènes, tu l'as fait mille fois. Et Nolan, il a choisi celle-là. Et tout le monde, regarde comment elle est. Il y a eu un bad buzz autour du film, etc. Mais bon. Mais l'attente qu'il y a eu autour de ce film-là, il n'y a jamais eu... Enfin, en termes d'attente de film, ça, c'était une...
Ah oui, parce que même moi, je l'attendais, là.
Mais c'était incroyable.
Ah oui, j'étais fou, là.
On n'a jamais vu ça. Mmh.
Flexta, quelle note tu mettrais sur 10, alors?
Moi, je mets 9, parce que le film, musique, des plans iconiques, les personnages, les interactions, le jeu d'acteur, les intrigues, l'iconisation du personnage du Batman. Le mec a réussi à faire oublier Jack Nicholson. La vraisemblabilité de l'univers qui nous est, tu vois, c'est pas des vaisseaux spatiaux intergalactiques ou je sais pas quoi, c'est des trucs paramilitaires d'une technologie avancée, mais ça reste humain.
Ouais.
Les bagarres, et surtout la fin. La fin, en fait, c'est pas une happy end. Ouais, c'est une fin mi-figue, mi-raisin.
À la fin,
il a gagné, mais il a perdu.
Il a tout perdu.
C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié, lui. C'est-à-dire que Batman, c'est mort.
Ouais.
Mais en même temps, tu t'es sacrifié pour la ville.
Ouais, c'est vrai.
Et après, quand tu le regardes par rapport à l'autre... au film qui vient après, son sacrifice, il a servi à rien.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est une fin triste. Et tu ressors de là, t'es même triste pour Batman, en fait.
De ouf.
Toi, t'es carrément énervé.
Ah ouais.
T'es triste pour lui, tu dis, ouais, mais tu mérites pas ça, gars. Ouais, tu t'es sacrifié, etc. Donc, pour tout ça, là, pour toute la dramaturgie qu'il y a, moi, je lui donne 9. Mais pour moi, en vérité, c'est même pas un vrai film de super-héros, en vérité.
Ouais, c'est ce que je disais, même si t'aimes pas les films de super-héros, même si tu peux le regarder comme étant un film, pas de super-héros. Mmh.
C'est pour ça que, attention, DC, c'est sombre. C'est parce que, bon, il y a eu Nolan qui voulait un truc plus cérébral et Snyder qui voulait un truc aussi plus sombre, plus tu vois, comme Watchmen, etc. Avec, parce que en réalité, c'est pour moi, c'est plus humain de le faire de côté sombre comme ça, parce que si ça arrivait dans la vraie ville, on serait pas là en train de jeter des fleurs.
On serait
dans un truc menace militaire ou
ouais,
le mec.
Ouais, c'est clair. C'est
vrai. Et normalement, il devrait y avoir même plus de sang, etc.
C'est ça qui rend crédible le film également. Moi, je suis Flexta, hein. C'est 9 également pour moi. Franchement, très très lourd ce film. J'ai rien à redire, d'autant plus que je partais de très loin avec Batman. Comme tu l'as dit, le gars au câble, je m'en souviens toute ma vie. C'est comme ça qu'on le surnommait. C'était pour nous, c'était juste un gars qui gérait des trucs astuces, entre guillemets. Il avait quelques petites capacités, mais rien d'extraordinaire pour nous. Et là, il est passé, après ce film-là, il est passé devant Superman pour moi. Parce que finalement, je me suis dit, ah, mais Superman, il vole, c'est bon, il est cheaté, entre guillemets, comme personnage, il a trop de pouvoir. Batman, il n'a rien, et finalement, il en impose. Et je trouve que Bale, il s'est fait... Pour moi, il aurait dû avoir un Oscar pour ce film. Parce que je trouve qu'il a... Oui, son personnage implique qu'il ne sorte pas totalement du lot comme le Joker, mais le rôle qu'il a joué, il a joué de façon magistrale.
Il a bien incarné.
Franchement, il a trop bien incarné. Après, du coup, je n'ai pas vu ceux d'avant, mais après, j'ai suivi les autres Batman. Ben, pour l'instant, il n'y en a aucun, pour moi, qui est... plus Batman que...
Ah ouais, le dernier, là, tu l'as vu.
Je l'ai vu, il est bien. Mais pour moi, c'est pas... Tu vois, c'est...
Ah bah, déjà, en termes de palette émotive, c'est déjà mieux que... Après, Bale, il a trois films. Pattinson, il en a qu'un. Mais c'est plutôt une belle surprise. Oui, après, le Batman, avoir un Oscar sur un Batman, c'est compliqué. Il n'y a pas d'émotion.
Ok, ok. Donc, on vient de finir cet arc sur Batman. C'était lourd. Flexta, quelles sont les news ? Alors, avant qu'on enchaîne, moi, je suis parole véritable, un truc de fou. Et
merci, c'est gentil.
Je suis frustré parce que j'attends la suite. Je me suis arrêté là sur un épisode qui était lourd, hein, sur la Cité de Dieu. Et en plus, on venait d'en discuter, on voulait en parler okay, avant. Okay. Et vous avez sorti l'épisode, je me suis dit, non, les gars, on fera pas mieux, laissez tomber. Flexa a sorti le truc.
L'a laissé, les gars.
Kiffez seulement, laissez tomber. Maintenant, on attend la suite.
Non, alors, non, faut pas faire fin.
Faut pas faire quoi ?
Chacun a son point de vue. Non. Nous, on l'a fait d'une autre manière, vous le ferez d'une autre manière. Non, tu vois ce que je veux dire ? C'est un ressenti.
C'est pas ça, mais franchement. En plus, il y avait Fiche, de ouais. Bouscapé et tout. Laisse tomber. Franchement, on a ressenti le film. Ce que vous avez raconté à vous trois, c'est ce qu'on a ressenti, tu vois, au final, tu vois. Le fait que Zepiquinho, en vrai, c'est pas un gars idolâtré, etc., etc. Tous les messages que vous avez fait passer dans ce truc-là, c'est ce qu'on ressent, tu vois. Donc, on va pas débattre des choses qui ont déjà été faites et qui ont été bien faites, tu vois. Donc, maintenant, la suite.
Tous les jours, je me fais engueuler sur les réseaux sociaux. Déjà. Alors, franchement, ça me touche déjà de voir qu'il y a de l'attente.
Ah, on attend.
C'est cool. Après, vous savez, on a des vies de famille, etc. etc. Il y a eu des problèmes d'organisation, etc. etc. Mais une bonne nouvelle, c'est que là, c'est bon. On a remis un petit peu l'église au centre du village. Et là, vas-y, pour prendre une expression bien chez nous, tu vois. Là, c'est bon, on va pouvoir enchaîner, on va repartir sur un run avec plein d'épisodes, il y a plein de trucs à venir. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais...
On veut
la surprise, mais voilà. Vous savez que nous, on est des gars ancrés dans la culture, on aime cette culture, mais... Et on pense la connaître, on est nés dedans, donc voilà. Et l'idée, c'est toujours de partager. Partager, donc on va aller sur des œuvres, des films, des trucs toujours plus intéressants, avec toujours... de plus en plus d'artistes, plus ou moins connus, etc. En fait, c'est pas forcément parce que t'es plus connu qu'on va t'inviter. C'est est-ce que tu corresponds au sujet ?
Ouais, bien sûr.
Fiche, Bouscapé, ça correspondait parfaitement au film parce que c'est grâce à ces films de sa vie, en fait.
Exactement.
Donc, voilà, on essaie toujours de calquer ce truc-là. L'idée, c'est d'être sincère, toujours.
Et il y a une date ou pas ?
Non. Donc, dans les mois, dans les semaines à venir. Là, dans les semaines à venir.
J'ai entendu des mois, j'ai flippé.
Non, dans les semaines à venir. Non, on va commencer à retourner bientôt là, dans les semaines à venir. Il y a des formats qui vont arriver.
Lourd. Bon, en tout cas, on te remercie. Vraiment, merci.
C'est moi qui vous remercie, les gars.
Ça, c'est la magie d'Internet. Ouais, moi, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent que j'étais pas trop dans les réseaux, etc. Mais là, quand ça permet de faire ce genre de connexion, c'est top. Parce que moi, j'écoute leur podcast depuis X temps. Et jamais je me serais dit que j'aurais Flexta à notre table, etc.
Non,
dans le sens où moi je regarde ça sur YouTube, j'ai pas de moyen de te connecter avec toi, tu vois, vu que j'étais pas sur les réseaux initialement. Et c'est l'aventure de ce podcast-là qui a fait que je me suis dit, on va demander. Je me suis dit, mais attends, tu sors pas d'épisode, mais viens, on va tourner Parole Véritable chez nous.
c'est magnifique.
On va écouter du Parole Véritable.
Non, franchement, c'est cool.
Bah, merci, mon gars, en tout cas.
Mais merci à vous, merci beaucoup, merci à toute l'équipe et continuez à faire ce que vous faites. Franchement, c'est cool. Votre camaraderie, tous les trois, là, de ça, comment vous êtes organisés, tout et tout, ça sent la sincérité et c'est fort. Donc, merci. Ceux qui suivent Parole Véritable, suivez aussi le Big Tree. Même s'ils n'ont rien à voir avec le basket.
Peace.
Ciao. Passez une bonne soirée, une bonne journée.
Le Big Tree. Réunion en famille autour des animés et des mangas.
Walido.
Yoni.
Participez à d'autres réunions de famille du Big Free en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Make
some
noise.